l'appel des conseillers municipaux. Et donc, je commence par le Benjamin, monsieur Tom Laborde. Merci. Monsieur Yann Guimard. Il arrive. Allez, on va attendre. Monsieur Pierre-Léon Luneau. Présent. Madame Janine Le Golvan. Monsieur Charles Bietri. Il est absent.
Absent, Charles.
Il a donné pouvoir à monsieur le maire. On ne me dit rien dans cette mairie. Donc, pouvoir, Olivier Lepic.
Excuse-moi.
C'est pas grave. Madame Juliette Cordès. Bonjour. Monsieur Philippe Le Guénec. Madame Françoise Le Pennec. Monsieur Christophe Richard.
Présent.
Madame Morgane Petit.
Absent.
Est absente. Monsieur Jean-Paul Cargosien. Je crois que je l'ai vu. Présent. Madame Christine Desjardins.
Présent.
Monsieur Olivier Buquin.
Présent.
Monsieur, Madame Marie-Pierre Gasset. Monsieur Jean-Luc Servet.
Présent.
Madame Christine Lamandé.
Présent.
Monsieur Michel Durand.
Présent.
Madame Catherine Isoard.
Présent.
Monsieur Loïc Coudois.
Présent.
Madame Catherine Alain.
Présent.
Monsieur Gérard Marc-Albert.
Présent.
Fraîchement débarqué des Alpes. Madame Sylvie Robineau.
Présent.
Monsieur Pascal. Je sais. Monsieur Pascal Lejean.
Présent.
Présent. Madame Nanine Roy a donné un Pascal à monsieur. Un pouvoir à monsieur. À monsieur Lejean. C'est la fatigue de fin de semaine, pardon. Donc, Madame Nadine Roy a donné un pouvoir à monsieur Pascal Lejean. Monsieur Paul Chapelle est présent. Madame Katia Sculot.
Présent.
Et monsieur le maire, Olivier Lepic, est présent. Alors, avant de. Une secrétaire de séance, madame Le Pennec, comme d'habitude.
Oui.
Non, t'as pas le choix, de toute façon. Alors, avant de commencer ce conseil, vous allez vous voir remettre. Pendant ce conseil municipal.
Ah oui.
Une tablette qui va donc être distribuée à chaque conseiller municipal, qui permettra, qui a d'abord, elle a été paramétrée à votre nom avec une adresse internet. Elle va essentiellement vous permettre de recevoir tous les documents liés au conseil municipal et notamment les documents de synthèse, à la fois pour la fluidité, deux pour des économies de papier, parce que vous imaginez bien que imprimer à 27 reprise des dossiers intégralement de conseil municipal, c'est beaucoup de papier sur une mandature. Donc cette tablette a été achetée chez un prestataire Carnacoa, Carnac Informatique pour ne pas le nommer. Elle a une valeur de 300 €, donc ne la cassez pas, ne la perdez pas. Elle est à vous pendant tout le mandat. Et je pense que, sans trahir de secret, si vous allez au bout du mandat avec, vous la garderez, parce qu'au bout de 6 ans, malheureusement, elle sera probablement, malheureusement, à cause de l'obsolescence programmée, plus très utile. Et donc, voilà. Simplement, je sais que Madame Le Golvan aime bien recevoir les versions papier. Évidemment, quand on prend une tablette, on renonce à la version papier, parce que... Ok, non, mais justement, c'était la question que je pose. Si vous préférez le papier, vous renoncez à la tablette, et donc on fait... Voilà. Mais l'esprit de la chose, c'est à partir du moment où on donne une tablette, on ne demande plus au personnel de faire les impressions papier. Après, il y a des gens qui sont habitués à bosser sur du papier, ce que je peux comprendre. Mais voilà. Donc, s'il y a... À part Madame Le Golvan, tout le monde est preneur de la tablette ? Non ? D'accord. Non, mais alors, soit... De toute façon, ils seront toujours envoyés par mail. Et si vous avez une imprimante chez vous, vous pouvez vous les imprimer. Parce que Mme Le Golvan, elle demande une impression papier faite par la commune qu'on lui donne. C'est ce qui est différent. Ok, parfait. Bon, ben, très bien. Voilà pour... je ne sais pas à qui est celle-là. Il y a Monsieur Paul Chapelle. Voilà.
Ah, j'avais gagné
le reste sera distribué tout à l'heure. Parce que je l'ai prise au hasard et c'est la première qui est tombée.
Alors, une petite précision, enfin, vous allez le voir dans les décisions du maire, comme vous avez pu le voir, on a pris la position d'acheter ces tablettes-là à un commerçant carnacois. Ah, pardon.
Ça fait plaisir, je vois que... Ouais. Autre chose, il y a une possible. Alors, je sais que certains élus l'ont déjà eu, mais pareil, dans une volonté de réduction des matières plastiques. Vous savez qu'on s'est engagé dans le zéro plastique à Carnac. Tous les employés municipaux de la commune ont reçu cette petite gourde avec aux armes de la ville. Et alors, évidemment, les élus qui en ont déjà une, s'il vous plaît, abstenez-vous. Mais également, vous allez être recevoir une petite gourde en métal et qui vous permettra d'éviter de boire des bouteilles en plastique. Donc voilà, je ne sais pas qui fera la distribution. Cette fois-ci, celle-là, elle est à... toi, tu en as une, toi.
À ta voisine.
Ah, non, elle en a une aussi, je crois. Parfait. Après ces quelques digressions, je vous propose donc de passer à l'ordre du jour officiel de ce conseil municipal avec le premier rapport qui est l'approbation des procès-verbaux des séances du 6 juin, du 26 juin et du 10 juillet. Donc j'imagine, comme on n'a pas reçu de commentaires avant le conseil, j'imagine qu'il n'en a pas. Ils sont donc approuvés. Je vous remercie. On passe au compte rendu des décisions du maire qui porte les numéros 52 à 77. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions du maire ? Oui. Monsieur Guimard ?
Bonjour à tous. Juste une petite question sur la 68.
D'accord.
Sur savoir à quoi ça correspond. Par exemple, Carnac Presse, est-ce que c'est...
C'est la maison de la presse.
C'est la maison de la presse qui fournit la médiathèque.
Alors en fait, on privilégie les fournisseurs carnacois qui vendent des livres, et donc on a réparti les commandes entre tous les commerçants de Carnac qui peuvent fournir des livres. Et donc la maison de la presse fournit des livres.
Et donc il fournit des journaux, des magazines, des choses comme ça.
Des livres essentiellement.
Et des livres. Ok.
Donc, c'était juste. Puisque là, je ne crois pas que la médiathèque est de la presse quotidienne, si non. Aussi. Si. D'accord. Ok. Bon ben voilà, pas seulement des livres. Autre question sur ces décisions du maire ?
Oui.
Madame Le Golvan ?
La 52.
Oui.
Marché études redynamisation du centre-ville.
Oui.
Donc liaison, menhirs, bourg et plage. Donc là, on voit 87 330. On sait combien ça va coûter réellement, puisqu'on devait avoir des subventions. On a une idée ?
Monsieur Chapelle ?
Oui, alors, comme ça a été indiqué déjà, je crois, lors du précédent conseil municipal, les subventions sont à hauteur de 50 000 euros, de mémoire 7 500 par la communauté de communes et 42 500 pour, à la charge de la région. Bon, ça reste, je vous cite des chiffres de tête, mais c'est de cet ordre-là.
D'accord. Il y a la 66 aussi, donc marché de travaux giratoires du Lignol, avenant numéro 1, plus 24 494 euros. Donc on voit que les travaux sont à peu près terminés, j'imagine. La piste cyclable jusqu'au bourg, les aménagements, c'est prévu ou pas ? Enfin, on voit un champ.
Alors le supplément qu'on a eu sur le giratoire du Lignol, c'est qu'il y avait sur le côté de la voie un fossé assez profond. Et le département, quand ils sont venus, puisque c'est une route départementale, on trouvait que c'était un peu dangereux, ils nous ont demandé de le reboucher, donc ça fait un supplément au marché, sinon le marché, on était dans les clous dans le marché. Et la piste cyclable qui va au bourg, je pense que vous en avez parlé, mais c'est que ACTA doit refaire la canalisation d'eau potable qui part du Runel et qui va jusqu'au rond-point du Purgatoire. Dans leur marché, dans leur premier marché, on va dire ça comme ça, ils avaient fait la partie sous le rond-point et ils attaquent après le rond-point vers Auray jusqu'au Purgatoire. Et dans un second marché, c'est comme ça, hein, c'est pas nous qu'on décide, dans un second marché, ils feront du rond-point du Lignol jusqu'au Runel. Et quand ils auront fait cette partie-là, on pourra faire la piste cyclable dessus parce qu'on va pas faire la piste cyclable et qu'ils vont la casser dans 6 mois, dans un an.
D'accord.
Voilà. Et à première vue, ils attaqueraient les travaux au printemps. On n'a pas encore trop d'informations, on a une réunion lundi, nous dirons à peu près ce qui se passe.
D'accord. Il y a la 71 aussi. Donc j'avais posé une question à Mme Carbrac qui m'a répondu d'ailleurs parce que j'avais reçu le mail avec le tableau donc des tarifs pour l'accueil périscolaire et donc je vois qu'on a essayé. Donc c'est bien. J'étais pas à la commission donc je trouve ça bien donc je tenais à le dire. Donc on a conservé les tarifs précédents même si c'est à 1 centime ou 2 centimes, c'est pas ce qui était prévu, en tout cas, auparavant. Donc, je tenais à le souligner. Sinon, il y a la 74, engagement du cabinet Coudray pour la défense des intérêts de la commune dans le cas d'un contentieux lié aux ressources humaines et le paiement des honoraires pour un montant de 2346 euros. Ça concerne le dossier qu'on avait évoqué la dernière fois au conseil municipal ou pas ?
C'est sur l'ensemble, c'est un montant qu'on donne au cabinet Coudray qui nous suit sur l'ensemble.
Problématique RH.
Voilà.
En fait, on a un droit de tirage, on consulte quand on a un problème, comme souvent avec les cabinets d'avocats.
Et je voulais faire une remarque pour la 75 aussi, on l'avait déjà évoqué au dernier mandat. Donc, location de logement à Valbois, 1er septembre au 31 octobre, 15 euros par nuit, charges comprises. C'est vrai qu'on a beaucoup d'hôtels, de chambres d'hôtes et autres sur Carnac. Et On avait déjà évoqué le fait que ça pouvait faire comme une concurrence un peu déloyale de la part de la commune pour les privés. Enfin, on avait fait la remarque.
C'est pas le même tarif, hein,
non, non.
Les hôtels.
Oui, mais on peut privilégier une entreprise avec ces tarifs-là par rapport à d'autres entreprises qui, peut-être, elles ne postulent pas parce qu'elles ne peuvent pas loger leurs salariés non plus.
S'ils sont logés à l'hôtel et que ça leur coûte plus cher, ils nous refacturent plus cher.
C'est ça le problème, c'est de l'argent public.
Donc,
on essaye de trouver la solution la moins consommatrice de deniers publics.
Dernière fois, c'était toujours Valbois. On voit qu'il n'y a pas d'autres entreprises. Bon, peut-être que les autres...
Ils viennent de Rouen. Oui.
Enfin bon, on avait fait la remarque.
De toute façon, le chantier est fini.
Mais je tiens à faire la remarque quand même. Voilà. Merci.
Alors, on passe à l'approbation du règlement intérieur du Conseil municipal pour la mandature 2020-2026. Vous savez que nous avons adopté ce règlement intérieur au début de chaque mandat et dans un délai, je crois, de 6 mois suivant l'élection. Il n'a pas changé, hein, donc à part une petite coquille qui figurait, puisqu'on n'avait pas changé le nom des listes qui, elles, avaient changé entre deux élections, il est strictement similaire à celui de la mandature précédente. Encore une fois, il y a le règlement, il y a la lettre et il y a l'esprit. Ce conseil municipal doit rester un lieu de débat et de libre parole. Et j'entends en être le garant. Donc là aussi, on fonctionnera comme lors du dernier mandat. Et ce règlement intérieur est évidemment à connaître de la part de chaque conseiller municipal. C'est un petit peu, je dirais, le guide dans lequel et le cadre dans lequel doivent se dérouler nos débats. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement intérieur? J'imagine qu'il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 4, qui est donc la désignation d'un représentant à la CLECT. Monsieur Lejean va vous expliquer ce que c'est que la CLECT, pour ceux que cet acronyme mystérieux effraie. La commission locale d'évaluation des charges transférées, c'est donc une commission qui est au sein de l'intercommunalité et qui calcule, lors du moment d'un transfert d'une compétence, les charges qui sont transférées à l'intercommunalité et donc la compensation que la commune perçoit au titre de ce transfert de charges. Et Monsieur Lejean siégeait déjà dans cette CLECT lors du dernier mandat. Il est l'adjoint aux finances de la commune et on vous propose donc le nommer ou de le proposer en tout cas ou de le désigner plus particulièrement comme représentant au sein de la CLECT de notre intercommunalité s'il en accepte la charge, monsieur Lejean.
Il y en a d'autres qui veulent apprendre.
C'est pas très drôle, effectivement, la CLECT. Est-ce qu'il y a des remarques ou unanimité également? Je vous remercie. Alors, nous avons déjà désigné donc nos deux représentants à la commission. Là, c'est la commission intercommunale des impôts directs, pardon. Je pensais qu'on était déjà à la SPL. Similaire au rapport précédent, nous devons désigner donc deux représentants à la commission intercommunale des impôts directs. Monsieur Lejean, vous êtes déjà parti de la dernière. Michel aussi. Bon, écoutez, voilà, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Là aussi, c'est un petit peu pas forcément très drôle, ce genre de commission, mais elles sont importantes puisqu'il faut des gens qui connaissent bien les finances de la commune et leur territoire de manière à pouvoir se prononcer sur la fiscalité qui est mise en œuvre. Monsieur Lejean, vous vouliez rajouter une petite précision?
On en a parlé au dernier conseil municipal et Yann, qu'on nous avait sollicité pour... un petit peu forcé d'ailleurs, pour être honnête, dans la commission, ainsi que Nadine Rouet, puisque aujourd'hui on intègre aussi les entreprises, puisque avant c'était les personnes qui payaient les taxes d'habitation et les taxes foncières, et qu'il fallait aussi maintenant mettre dedans les personnes, du moins, ou les entreprises, les représentants des entreprises qui payent des taxes CFE qui remplacent la taxe foncière. Donc pour Yann qui est revenu, ça correspond à la commission où j'étais un peu imposé une dernière fois d'être dedans.
Non, il a gentiment accepté.
Hein, c'est cette commission-là, voilà, tout simplement. Elle se réunit une fois par an derrière.
Donc voilà, donc on propose de reconduire Pascal Lejean et Michel Durand à cette commission intercommunale. Pas d'objection. Je vous remercie, unanimité. On arrive au rapport que je pensais devoir traiter tout à l'heure. Donc on a déjà désigné nos représentants au sein de la société publique locale au Réquibron Tourisme. Vous savez qu'il y a la structure qui porte la gestion touristique de de l'intercommunalité, structure dont nous sommes Carnac actionnaire. Nous avons deux sièges pour la commune de Carnac. Simplement, l'intercommunalité nous a demandé, puisque ce n'était pas précisé dans le premier rapport que nous avions voté il y a quelques semaines, de préciser que les représentants désignés par la commune peuvent accepter d'autres fonctions que celle de représentant simple au sein du conseil d'administration. En l'occurrence, c'est éventuellement un poste de président et de vice-président du conseil d'administration. Donc, ce n'était pas le cas dans la mandature précédente. Et donc, si d'aventure un de nos deux représentants, à savoir M. Lejean ou Mme Lavigneroy, était désigné pour prendre la présidence ou la vice-présidence, nous avions obligation de spécifier dans l'arrêté de désignation que cette possibilité était offerte par la commune, et c'est ce que je demande, c'est ce que je vous demande de ratifier à ce stade. Donc c'est un complément au rapport que nous avons déjà voté il y a quelques semaines en conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport purement technique? Unanimité, donc je vous remercie. On passe à monsieur Jean-Paul Kergosien. Premier rapport en conseil municipal tout seul comme un grand, c'est un?
Oui.
Bon, bravo. Donc on va être indulgent, on va écouter religieusement monsieur Kergosien. Je suis sûr qu'il a bien travaillé son sujet. Et donc Jean-Paul, je te passe la parole.
Merci. Donc là, il s'agit de désigner ce qui est du ressort de la municipalité, donc les délégués à la commission communale d'aménagement foncier. Donc l'aménagement foncier, en fait, donc c'est un des objectifs de l'aménagement foncier, donc c'est l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles et forestières, la mise en valeur des espaces naturels ruraux, l'aménagement du territoire communal, éventuellement intercommunal. Donc la commission communale d'aménagement foncier donc comprend, pour ce qui est du domaine de la municipalité, 5 propriétaires possédant des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune, dont 3 titulaires et 2 suppléants élus par le conseil municipal. 4 propriétaires forestiers sur le territoire de la commune, dont 2 titulaires et 2 suppléants. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner les représentants qui suivent. Donc, parmi les 5 propriétaires possédant des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune, donc titulaire Christian Lorcy, Vincent Janot, Christian Bouilly, suppléant Henri Audran, David Daniel. 4 propriétaires forestiers, 2 titulaires Hervé Robineau, Joseph Leport, 2 suppléants Philippe Duquesne, Jean-Luc Kergosien, ainsi que 3 élus, donc le maire étant titulaire de droit, donc titulaire moi-même, Jean-Paul Kergosien, et suppléants Gérard Marc-Albert, Michel Durand. Donc, sachant que ces personnes sont ceux nommés par le conseil municipal à la commission communale d'aménagement foncier, mais qu'il y a bien sûr d'autres représentants dans cette commission qui est pilotée par le conseil départemental.
Bravo, un sans faute, monsieur Kergosien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette commission départementale après cet instant mémorable? J'espère que des gens ont filmé.
Non.
Est-ce qu'il y a des questions? C'est une question importante pour la commune. On est encore, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et notamment ceux qui n'habitent pas à Carnac, nous sommes encore une commune rurale, et l'aménagement foncier, notamment pour les agriculteurs qui ont des exploitations à Carnac particulièrement disséminées, est un sujet très important, puisque pour faciliter à la fois leur travail, l'accès à leurs parcelles et surtout ne pas avoir des exploitations qui sont complètement disséminées dans la commune, ce travail d'aménagement foncier que va mener en coopération évidemment avec l'ensemble des acteurs, monsieur Kergosien, est absolument fondamental pour les agriculteurs, mais également pour la gestion de nos campagnes en général.
Oups, juste une petite question, il reste combien d'agriculteurs?
Il doit en rester 9. Il y en avait, je crois, statistique intéressante, il y en avait plus de 100 au début du XXe siècle.
Et il y en avait 30 il y a 40 ans.
Et il y a une volonté d'en faire revenir de la part de la...
Bien sûr,
majorité.
On aimerait bien en faire revenir. Après, faire revenir, c'est d'abord, c'est pas le le fait que le nombre d'agriculteurs a baissé n'est pas uniquement le fait de Carnac. Le nombre d'agriculteurs s'est effondré depuis le début du XXe siècle partout en France à cause de la mécanisation, à cause des surfaces agricoles exploitées qui sont beaucoup plus grandes. Avant, on avait des exploitations petites. Aujourd'hui, dans certaines régions de France, l'unité de base, c'est 100 hectares hein, dans la Beauce. Donc la volonté de la municipalité, c'est évidemment de conforter l'agriculture, si possible, une agriculture respectueuse de l'environnement, donc bio. Après, c'est un domaine dans lequel on a très peu de leviers, parce qu'en fait, c'est la SAFER qui gère le foncier. Ce sont des activités privées en général, hein, avec des personnes qui s'installent souvent en empruntant pas mal d'argent, qui sont aussi tributaires des marchés mondiaux comme celui du lait, par exemple. Hein, on a encore quelques exploitants laitiers sur la commune. Donc oui, si on peut en faire revenir, mais j'allais dire si on peut déjà faciliter la vie de ceux qui aujourd'hui exploitent à Carnac en faisant des regroupements fonciers, ce sera déjà bien parce que en faire revenir, c'est très compliqué. On a de temps en temps des demandes, mais évidemment, les terres sont beaucoup moins chères dans le centre de la Bretagne. Donc voilà, c'est pas forcément l'endroit où les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer pensent évidemment. Mais je crois quand même que dans le domaine du maraîchage, il y a peut-être des choses à faire. En tout cas, le maraîchage bio, parce que justement, en développement, ce qu'on veut faire, c'est-à-dire les cycles courts de la cantine, dans un cahier des charges de la cantine, en demandant que une partie des aliments soit achetée localement, et notamment à des propriétaires locaux, on peut aider indirectement les agriculteurs à se réinstaller sur la commune. Donc c'est un peu l'objectif. Hein. Mais en faire revenir, je dirais, une dizaine, je crois que c'est malheureusement, compte tenu de l'évolution de l'agriculture, c'est quasiment impossible. Oui.
Il y a un gros projet qui se prépare en France, je suis au courant, qui sort des chiffres qu'il y a 70 000 emplois pour voir en France chaque année dans l'agriculture, 160 000 fermes à reprendre dans les 3 ans qui viennent, et il y a un très gros projet auquel la commune pourrait peut-être s'associer, qui est encore balbutiant, mais...
Je ne connais pas ce projet, mais...
Vous seriez preneur qu'on vous propose éventuellement ?
Comment ? Ah oui, ouais. Nous on est preneurs, mais enfin, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas trop de problèmes de reprise de fermes sur la commune, c'est surtout... c'est surtout la capacité à continuer l'exploitation et à vivre décemment de son métier. C'est un peu le problème des agriculteurs. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'emplois vacants. C'est que c'est un métier qui est très dur et dont on vit très mal, comparé à l'engagement que ça nécessite. C'est un métier très dur. Mais oui, enfin, toute initiative est bonne à prendre. Ouais. Je connais pas celle-là, mais avec plaisir. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Je vous propose, Monsieur Chapelle, de voter les 3 prochains rapports en une seule fois, puisqu'il s'agit exactement de la même chose, mais pour 3 OAP différentes.
Oui, voilà. Alors, il s'agit dans le cadre de l'appel à redynamisation du centre-bourg, qui concerne notamment un volet important, c'est l'aménagement du foncier... et la création de mobilité entre les différents sites principaux de la commune, c'est-à-dire les alignements, le bourg et la plage. Cet appel à redynamisation consiste donc à redynamiser le centre-bourg. À ce titre, il est nécessaire de qualifier ce qu'on appelle un périmètre d'opération. C'est dans la structure, dans les obligations de cet appel à redynamisation. Le dessin de ce périmètre nous a été proposé par le bureau d'études. Il s'agit en fait de délimiter des secteurs fonciers vacants, donc non bâtis, qui pourraient avoir un rôle important dans le cadre des futures propositions qui pourraient nous être faites par les bureaux d'études. C'est-à-dire des emplacements stratégiques. Alors, ils en ont relevé 3. Le premier étant celui de l'OAP du Ménec, où évidemment, là, c'est du foncier qu'on ne maîtrise pas et qui est situé près des alignements. Il peut y avoir un intérêt, selon le bureau d'études, à étudier vraiment l'aménagement futur de cette OAP, qui, pour l'instant, comme les 2 autres que l'on va voir, sont réservés exclusivement à de l'habitat. Donc la question que pourrait se poser Le bureau d'études, c'est de dire, voilà, peut-être qu'à cet endroit-là, on aura besoin de créer des circulations douces, des voies de transport, pourquoi pas des services, un intérêt un ouvrage public, un parc. Enfin bon, on ne va pas préjuger de ce qui n'a pas encore été défini. Ce périmètre, en fait, permet finalement de contrôler l'aménagement futur de ces OAP. Alors, trois secteurs, donc évidemment centraux, ont été repérés. Il s'agit le premier, c'est le secteur du Ménec, hein, que vous voyez là, vous connaissez tous le site, derrière la salle du Ménec, etc. Donc vous voyez toute cette OAP-là, qui évidemment, on le voit déjà sur la carte, a un intérêt stratégique, notamment en matière de mobilité, on voit bien que cette route-là n'est pas très très pratique, et de sa proximité envers les alignements, ce que je viens de dire. Le deuxième secteur, je ne sais pas si on peut passer au suivant. Deuxième secteur ici, donc vous avez là on est où ? Le Raïque, la partie nord du Raïque. Alors, là aussi, évidemment, c'est un emplacement plus que stratégique, puisqu'il est situé entre le bourg et la plage. Donc, il y a un tel potentiel à cet endroit-là que lorsqu'on a défini les OAP, évidemment, on n'a pas eu toute la matière pour vraiment apprécier à sa juste valeur la destination de ces emplacements. Une fois qu'on a construit, c'est pour la vie, hein, c'est au moins pour 50 ans ou 70 ans. Donc, s'il y a lieu de finalement débloquer la destination qui est uniquement de l'habitat, c'est ce qui est prévu dans les OAP, hein, dans celle-là, ce serait peut-être dommage de se priver de faire autre chose. Je parle toujours sans préjuger de ce qui va être défini avec le bureau d'études et les élus et la population, bien évidemment. Il y a peut-être un endroit là qui leur semblait intéressant, à proximité du parc Césarine, pourquoi pas un autre espace vert, pourquoi pas un parc en commun avec des jeux, pourquoi pas un square, une mobilité, des services, enfin on n'en sait rien, ça c'est le bureau d'études qui nous le dira, peut-être que ça restera tout simplement de l'habitation, mais voilà, ce secteur-là leur semblait évidemment géographiquement intéressant dans la ligne droite qui constitue l'alignement entre les alignements, le bourg et la plage, hein, d'être préservé et soumis à des propositions qui pourraient peut-être être intéressantes pour la commune. Le troisième secteur que vous connaissez également, il s'agit de l'avenue du Roer, le nord de l'avenue du Roer. Donc vous voyez l'OAP qui est en cours de réalisation, c'est le secteur B. Le secteur A se situe plus à l'ouest et rejoint par son accès le sud de l'église. Donc on voit que là aussi, il y a également un intérêt éminemment stratégique. C'est un grand espace vert actuellement en plein centre de Carnac. Alors évidemment, on aura toujours besoin de créer de l'habitat compte tenu des objectifs d'augmentation de la population, de trouver des logements sociaux, de pouvoir loger tout le monde, mais son aménagement peut-être mériterait d'être redessiné afin de répondre à des exigences de mobilité notamment. Là, on voit bien que il y a une traversée directe du sud de la place de l'église pour aller jusqu'à l'avenue du Roer et rejoindre Césarine. Voilà, il y a peut-être des provisions qui peuvent être intéressantes. Donc ce troisième secteur a été retenu également par le bureau d'études et nous-mêmes aussi comme étant un secteur où le foncier est libre et pourrait être intéressant dans le cadre de futurs aménagements.
Alors, vous le savez, enfin pour les conseillers municipaux qui ne sont pas au fait du concept de l'OAP, l'OAP est un concept qui est né de la loi Elan, hein, qui a été donc imposé aux communes. Je ne suis absolument pas un grand fan de ces concepts d'OAP, parce qu'elles produisent, enfin, comme souvent, on a adopté une loi jacobine qui s'applique à l'ensemble du territoire, mais le principe de l'OAP, qui est un principe de première destination intelligent qui consiste à dire on ne peut plus consommer du foncier comme on l'a fait dans les années 50 avec le mitage et il faut absolument limiter l'emprise sur les zones agricoles et les zones non construites. Simplement, on a pris une disposition qui est celle des OAP qui consiste à dire voilà, quand il reste un terrain libre dans une zone urbanisée, l'État vous impose une densité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, admettons que M. Luneau soit propriétaire de ses 5000 m², eh bien, il n'a pas le droit de construire sa maison tout seul au milieu de ce terrain. L'État lui impose, et a imposé à la commune, hein, une densité de 45, 50 logements à l'hectare. Alors, dans une commune très urbanisée, je ne sais pas, on est en région parisienne, c'est une très bonne idée, parce que ça permet de monter et puis de pas gaspiller du foncier. Mais dans une commune comme la nôtre, où on a un habitat qui est très disséminé, qui a un habitat, je dirais, balnéaire avec des petites maisons, ça nous oblige, et j'en ai parlé souvent au préfet, on est contraint par, évidemment, parce que les promoteurs sont très attirés par ce genre de choses, et comme il y a du 45-50 logements à l'hectare, même si dans le cadre du PLU, on a fait la densité la plus basse qu'on pouvait, ça fait des espèces de verrues dans le paysage, parce que, même si ça permet de loger les gens, d'un point de vue esthétique, c'est pas très bien. Donc l'idée sur lequel on a travaillé avec Paul et avec d'autres, c'est de se dire, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui rôdent sur ces espaces, on a lancé une étude sur la redynamisation du bourg, on a des objectifs en matière d'espace vert et de circulation douce. L'objectif des trois résolutions qu'on vous demande de voter, c'est ça nous permet de bloquer, de garder le contrôle sur tout projet qui pourrait être lancé sur ces OAP, qu'on ne contrôle pas, hein, c'est-à-dire que c'est des terrains privés et on ne peut pas empêcher un privé de vendre son terrain à un promoteur immobilier. Avec cette disposition, on ne bloque pas ad vitam aeternam, mais en tout cas, on attend la réalisation de cette étude de redynamisation du bourg et des éventuelles propositions autres que du béton ou de l'habitat, bien que, encore une fois, on a aussi un vrai problème d'habitat à Carnac, on en a conscience. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel on a décidé de soumettre ces trois rapports au conseil municipal. Ça permet de mettre la pédale de frein sur trois espaces vraiment stratégiques en attendant qu'on ait bien réfléchi à ce qu'on voulait en faire.
Vous dites que la loi nous l'impose, mais lorsque le PLU a été fait, vous auriez pu ne pas faire ces 14 OAP
Non, Madame Le Golvan, on vous l'a déjà expliqué au moins 10 fois en conseil municipal. Je sais que malheureusement, ça ne sert à rien d'expliquer une 11e fois, mais non. Parce qu'il y a des objectifs de population et le PLU devait être conforme à ces objectifs de population que nous n'avions pas fixés. C'était la municipalité précédente. Donc arrêtez avec ça. C'est faux, c'est un mensonge de dire ça. Bah si. Donnez-moi l'autre argument, alors, Madame Le Golvan. Comment on aurait pu faire pour éviter ça?
On voit que ACTA revient sur le chiffre de nous, on était, l'objectif était d'être 5000 habitants.
C'est le chiffre d'aujourd'hui, mais le PLU, il n'a pas été fait sur le chiffre qu'ACTA conteste aujourd'hui. Il a été fait à une époque où on avait un autre chiffre. Enfin non, on a toujours le même chiffre, d'ailleurs, il n'a toujours pas changé. Donc c'est un mensonge de dire ça. Vous le savez très bien, en plus.
Non.
Si. Ou alors expliquez-nous comment on aurait pu faire.
Ne pas voter. Justement, le fait d'un objectif de 5000 habitants.
Donc on n'aurait pas eu de PLU.
Bah écoutez, de toute façon, à travers, enfin, on va en discuter, j'imagine, mais là, ça méritait une révision. On en parle déjà depuis quelques années.
Bon, bref. Donc, non, vas-y, Paul. Mais...
Non, en fait, Mme Le Golvan, c'est vrai que ce sont des dossiers éminemment juridiquement très compliqués. Comme vous le savez, le SCOT a été approuvé avant l'élection du maire actuel, en 2014. Et la page 9 du DO du SCOT, puisque je l'ai en tête, avait été votée donc par les représentants précédents à la communauté de communes et donc actait les objectifs de population. Donc comme vous savez, il y a une durée du SCOT qui est en général de 6 à 10 ans. Il y a également en même temps un PLH, un programme local de l'habitat, qui a été voté. À ce titre, Carnac a été désigné comme pôle de vie en regroupant les communes voisines que sont La Trinité-sur-Mer et Plouarnel. Et on a un objectif à atteindre qui était de 72 constructions par an. Voilà pourquoi on aurait voté un autre PLU. Il aurait été évidemment automatiquement retoqué par le préfet. Mais ceci dit, j'abonde un peu dans votre sens pour dire que beaucoup de communes d'ACTA notamment réétudient un peu parce qu'on s'aperçoit, les OAP c'est un principe récent, et on s'aperçoit que la mise en œuvre est quand même très problématique, et surtout dans les communes du bord de mer.
Parfait. Je vous propose, Monsieur Guimard, excusez-moi.
Une ou deux petites remarques. Vous mettez à un moment donné que, vu l'avis favorable de la commission urbanisme, or, il ne me semble pas que c'est passé. En tout cas, la dernière fois, je n'y étais pas, mais je n'ai pas vu dans le compte-rendu que cela avait été évoqué.
C'est peut-être une erreur, je ne sais pas.
Non, c'est passé la dernière fois.
Ah, d'accord, bon.
C'est passé la dernière fois,
M. Guimard.
Ouais. Mais ce n'était pas dans le compte-rendu. Non, c'est effectivement, je n'y étais pas, mais ouais. C'était pas dans le compte-rendu qu'on a reçu.
C'est exact, ça n'a pas été noté.
D'accord. Autre remarque, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord avoir l'étude pour pouvoir ensuite passer cette délibération, plutôt que de passer à délibération?
Non, justement, parce que si on ne la passe pas maintenant, il se peut que quelqu'un dépose un permis de construire, ce sera fait, ce sera fini.
Typiquement, au ROER, sur l'OAP du ROER, il y a, sur les deux emplacements, il y a déjà deux grands panneaux avec les...
Oui, justement. C'est pour ça qu'il faut le faire, très rapidement, parce que sinon, on ne pourra pas bloquer ça.
Donc aujourd'hui, ils ont déjà fait des demandes sur ces terrains-là?
Il y a des demandes, il y a des permis qui sont en demande d'instruction.
Et la délibération permettrait de bloquer ces projets-là qui sont déjà avancés? Tout à fait,
puisque le permis n'est pas... Oui, bien sûr.
Alors, par rapport justement.
Il y avait M. Junot d'abord.
Et ça permet de bloquer ça pendant combien de temps? La commune a combien de temps pour faire une proposition honnête au propriétaire foncier privé?
Alors,
et le motiver à vendre à la commune ou à la.
Oui,
oui, mais d'encourager un propriétaire privé à, à contribuer à la vie de sa commune plutôt que de réaliser effectivement son patrimoine auprès d'un constructeur privé dont on ne maîtrisera pas du tout le.
Bon, on maîtrisera un petit peu via le règlement d'urbanisme, mais effectivement pas totalement. Vous avez raison.
On tombe sur. Mais il y a la volonté de la commune ou le devoir de la commune de construire 72 logements par an.
Mm-hmm.
Donc ça se contredit un petit peu.
Monsieur Chapelle va vous répondre. Non, pas du tout. Monsieur
Alors, Chappelle. Déjà le programme local de l'habitat qui est rédigé. Édité par ACTA et ça va être renouvelé l'année prochaine. Donc on peut considérer que le programme local de l'habitat actuel va devenir obsolète. Il sera donc retravaillé. Le deuxième élément, on rentre dans le cadre juridique du sursis à statuer, c'est-à-dire que les projets d'urbanisme qui pourraient être déposés sur ce site peuvent être juridiquement bloqués pendant une durée maximale de 2 ans, qui est un délai très court. La durée de l'étude de l'appel à redynamisation, c'est 1 an et des poussières. Donc nous aurons tout le temps ensemble de décider d'un projet avant même de faire aboutir ça. Alors, il ne s'agit pas d'un achat par la commune. Ceci dit, on ne peut pas non plus, en raison du risque d'atteinte au droit à la propriété, qui est un droit sacré depuis Napoléon, on ne peut pas non plus bloquer éternellement le terrain d'un privé. Le sursis à statuer, c'est ce qu'on appelle parfois un refus poli de permis de construire, mais ça donne aussi des droits au propriétaire du foncier qui, lui, peut très bien dire bah, « Écoutez, il y a un sursis à statuer ». On ne pourra plus bloquer le terrain. Il pourra même, dans certaines conditions juridiques complexes, que je n'ai pas envie de développer, solliciter la commune à donc se porter acquéreur du terrain. Hein, c'est comme un droit de préemption, si vous voulez, qui est automatique.
Oui, c'est la question que je vais vous poser. Pourquoi la commune ne prévoit pas d'exercer un droit de préemption au cas où une affaire se
fait ? Je ne sais pas si c'est la volonté du maire et de l'équipe municipale tout entière de jouer le rôle de promoteurs, on pourrait, mais je vous rappelle qu'on a déjà quand même le projet Bélin à Bellevue qui va falloir résoudre, qui risque d'être un portage foncier important pour la commune. Donc voilà, on ne peut pas tout maîtriser. Je pense qu'il y a des bailleurs sociaux associés à des promoteurs qui le feront très bien. Et surtout, c'est pas forcément des promoteurs qui seront là. C'est le but aussi de ces trois OAP maîtrisés, alors qu'il en reste 10 ou 12 autres qui ne sont pas concernés, parce que les autres sont quand même en périphérie des endroits stratégiques de la commune et sont vraiment voués à l'habitat en raison de leur décentralité.
Oui, qu'en est-il de la révision du PLU? Parce qu'on a souvent évoqué ça en commission urbanisme. Donc,
bon.
Oui, on est en phase de préparation de modification pour l'instant du PLU.
Concernant les OAP dont vous parliez, vous parliez de maximum de construction, mais il y a des minimums aussi de construction sur les OAP. Est-ce que justement sur les futurs OAP, on fera attention à ne pas à ce que les promoteurs n'aillent pas jusqu'au maximum de construction possible?
Solution, il y a la réglementation actuelle et il y a toujours une négociation avec le promoteur. C'est-à-dire que pour prendre l'exemple de certaines OAP qui ont été réalisées, on a déjà négocié quasiment dans la fourchette basse à chaque fois. Ce qui d'ailleurs est assez effrayant, parce qu'on imagine que si ça n'avait pas été la fourchette basse, qu'est-ce que ça aurait été? Et donc, il est possible, dans le cadre éventuellement d'une modification du PLU, qu'on change ces règles. Mais elles sont très encadrées par la loi Elan, donc on n'a pas une marge de manœuvre totale sur ces sujets. Puisque, évidemment, la loi pousse à la concentration et à la densité pour justement ne pas consommer de foncier ailleurs, et notamment du foncier agricole.
Enfin, on le voit déjà à travers ces arènes, cette densification, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais il y a une autre OAP qui aurait peut-être pu, faire l'objet, en tout cas, d'une délibération aujourd'hui. On en avait discuté, c'est l'OAP qui va au Runel. Et c'est vrai que là, on a vu que la densité, en tout cas, le projet de construction qu'il y a au Runel, je vois Mme Robineau qui fronce les sourcils, on l'a voté l'année dernière. Et donc là, on a vu qu'on a pris une densité qui sera encore supérieure à celle de Césarine. C'est vrai que c'est un peu, on l'avait évoqué en tout cas, c'est un peu dommage parce que là, on...
Sauf Madame Le Golvan, que vous avez bien compris qu'on peut prendre cette décision en l'appuyant sur l'étude de redynamisation du bourg et qu'au Runel, il aurait été difficile de prétexter cette étude pour bloquer cette OAP. Il faut quand même un fondement juridique.
Oui, mais on aurait pu... en tout cas, prendre la densification la plus basse, c'est ce que je voulais souligner.
Là, c'est des logements sociaux et on manque cruellement de logements sociaux.
Oui, mais là, ils vont être les uns sur les autres, quand même.
Alors, il y a d'autres remarques?
S'il vous plaît, juste par rapport à ces trois OAP, notamment. En fait, là, vous nous demandez de voter contre le PLU d'il y a 4 ans. Et est-ce que ça ne pose pas de problème, ne serait-ce que juridique ou...
Monsieur Guimard, si on vous le propose, vous imaginez bien que ça a été disséqué par les services de la commune et c'est une délibération très très simple qui ne pose pas de problème. On ne vote pas contre le PLU, on vote un sursis à statuer, ce qui est très courant et très fréquent.
Et en officialisant ça, il n'y a pas un risque d'exciter les promoteurs encore plus pour aller plus vite?
Non, parce qu'à partir du moment où on le vote, c'est fini. Pour ces trois OAP, c'est fini.
C'est fini. De quoi?
Le sursis à statuer commence à partir du moment dans 5 minutes quand on aura voté.
Mais les promoteurs avec des grosses ressources financières peuvent faire de la surenchère et accélérer un...
Mais non, ils ne peuvent pas.
Ouais. Oui, mais...
Mais non, ils ne peuvent pas. C'est juste à partir du moment du vote, on peut refuser légalement le permis de construire.
D'accord. Pour quelles raisons? Vous pourriez refuser les permis de construire, par exemple?
C'est expliqué dans la délibération.
Oui, mais en quelques mots.
On vient d'en parler.
Oui, mais en résumé.
Monsieur Chapelle l'avait pourtant bien résumé. Ouais. Nous lançons une étude de redynamisation du bourg, les conclusions interviendront dans à peu près un an et demi, et que donc on pense qu'il y a peut-être une meilleure utilisation à ces terrains que de l'habitat. Et que donc, on veut se donner le temps de réfléchir pour trouver s'il n'y a pas une meilleure utilisation de ces terrains, un parc, une circulation douce, quelque chose comme ça. Voilà. Alors que si on ne le faisait pas, effectivement, vu qu'il y a des permis qui sont en cours, dans 6 mois, les travaux commencent.
Une dernière précision utile, c'est que le sursis à statuer n'est pas une obligation, c'est une simple faculté. Donc si jamais il y avait un projet qui convenait à tout le monde, qui serait vraiment... intéressant, rien ne nous interdit de l'accepter.
si on peut résumer, vous, au niveau des OAP, vous revenez sur ce qu'on prônait, enfin ce qui était prôné à travers les OAP, c'est-à-dire de la construction massive, et quelque part, ça permet aussi de conserver, enfin, en tout cas, de faire en sorte qu'on ne défigure pas complètement Carnac en votant ces trois bordereaux.
Ça c'est une interprétation politique de la chose, Madame Le Golvan. Donc je ne vais pas vous dire que vous avez raison, parce que c'est pas du tout l'objet.
Si vous lisez bien le bordereau, mais on l'a peut-être pas lu, on l'a pas lu non plus, je vous l'accorde, mais les OAP actuellement, elles ne sont destinées, contrairement à certaines OAP de certaines communes, ou très peu de communes peut-être, les nôtres ne sont destinées qu'à l'habitation. Or, celles du centre-bourg, notamment, ou celles qui sont situées entre le bourg et la plage, peuvent très bien être adéquate, utile pour accueillir, par exemple, un ouvrage public. Ça peut être une maison médicale, c'est pas un ouvrage public, mais un commerce, pourquoi pas, un parc, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas possible si on s'appuie sur la rédaction des OAP telles qu'elles ont été prévues. Vous voyez, c'est uniquement ça.
S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous propose de passer au vote. On va voter donc ces trois rapports qui portent sur le même sujet, donc trois OAP différentes. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean ?
Oui.
Autorisation de programme et crédit et la PCP du rond-point du Mignol ?
Tout à fait, c'est la PCP du rond-point du Mignol. On a vu une petite partie tout à l'heure avec Gérard qui vous expliquait différentes petites choses. Donc on a besoin d'augmenter cette APCP à la hauteur de 10 000 euros pour faire face effectivement à la demande supplémentaire qu'a eu le département par rapport à des travaux supplémentaires. Et surtout, derrière, nous avons une modification de la règle du jeu avec le SDEM qui avant intervenait directement sur une facture, donc on payait effectivement que la somme qui restait à charge pour la commune. Aujourd'hui, nous allons payer 100% de la facture et on va émettre un titre pour bénéficier des aides du SDEM. Donc on aura une dépense et une recette qu'on n'avait pas.
Pas de questions sur ce rapport très technique ? Des votes contre ? Abstention ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, toujours sur la première décision modificative du budget principal de la commune.
Tout à fait. Donc c'est de voter une décision modificative du budget de la commune en termes de dépenses de fonctionnement, des recettes de fonctionnement, dépenses d'investissement et recettes d'investissement. Vous avez vu les différentes lignes. Derrière, je vais vous donner quelques explications sur, effectivement, le chapitre 11 dans les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général. C'est une modification, un rallongement du budget propreté pour 2 mois. Je vous rappelle, on a relancé un appel d'offres sur le budget propreté de la collectivité. Au vu des résultats, on l'a rendu caduque, qui nous a permis de poursuivre pendant 8 mois sur l'ancien budget. Et donc là, on est en train de finaliser pour faire redémarrer un budget en début d'année, soit plus simple. Et donc, on a besoin de... Et on a besoin de rajouter 2 mois de fonctionnement puisqu'il s'arrêtait effectivement à fin octobre. Ça porte essentiellement sur la problématique qu'on va sans doute voir un peu plus loin, donc je reviendrai dessus, je ne vais pas aller vous l'expliquer maintenant parce que je crois qu'on l'a un peu plus loin. Sur le chapitre 14, c'est une modification d'un versement de la taxe de séjour à l'office du tourisme qui est la quote-part qu'on avait reçue de Airbnb, effectivement, qui est arrivée après la clôture. Donc pour équilibrer 244 000 euros au niveau de dépenses imprévues de fonctionnement. Sur les 15 000 euros, c'est une dotation aux amortissements. Vous avez retrouvé en écriture après. Sur les autres 110 000 euros que vous avez au chapitre 65, dedans c'est pour le musée. Un, pour l'activité qui suite au Covid a été en baisse, donc pour équilibrer les comptes. Et deux, derrière aussi pour l'étude qu'il y a pour le musée. Les charges financières pour 5 918 euros. Sur les recettes de fonctionnement, nous avons 20 000 euros qui sont les remboursements au niveau des congés, enfin remboursements d'assurance que nous avons suite soit des congés maladie du personnel, soit des congés maternité, qui là est plus des congés maternité. Les dépenses d'investissement pour 128 129 000 euros, si j'arrondis derrière. Donc, vous avez 80 000 euros qui sont, on en a parlé déjà, les avances dans les APCP. Nous avons fait des avances au niveau des entreprises et aujourd'hui dans le plan comptable, on nous demande tout simplement de les sortir. On ne peut pas les déduire des factures. Donc vous avez des entrées et des sorties que vous allez trouver dans les dépenses et dans les recettes. Les emprunts et dettes assimilées, c'est le remboursement de capital des emprunts. Les trois lignes que vous avez à suivre, parce qu'on va les prendre en trois lignes, hein, la 20, la 204 et la 21, j'ai déjà expliqué en commission finance, hein. Donc c'est la modification au niveau du SDEM avec les entrées et les sorties que je vous parlais. Donc vous voyez, vous avez des entrées et des sorties et on a 30 000 euros d'écart en supplémentaire. Sur les recettes d'investissement, vous retrouvez les mêmes chiffres, hein, dotations d'amortissement pour 15 000 euros, les avances APCP pour 80 000 euros et la redevance du SNEM pour 33 983, 54 exactement, qui correspond à ce que vous aviez au-dessus. Avez-vous des questions? J'ai été clair.
S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Une décision modificative, cette fois-ci la première également pour le budget annexe du musée, j'imagine que...
On va retrouver, voilà, tout à fait, donc dépenses de fonctionnement. Vous avez deux lignes principales qui sont les 16 000 et les 65 000. Donc on a un virement effectivement pour l'étude, donc c'est pour ça que c'est un virement à la section d'investissement. Et une rupture, les 16 500, c'est parce qu'il y a une rupture de contrat de travail avec négociation sur un des salariés. La recette de fonctionnement, ben, pour équilibrer 85 000 virements de la commune, tout à l'heure. Et vous retrouvez dans les dépenses d'investissement les 62 et les 65 qui sont essentiellement l'étude.
Il y a des questions sur ce, Madame Le Golvan?
Un point de détail. La dernière fois, donc, quand on avait vu le BP, on était intervenu justement par rapport aux charges de personnel. Et il y avait une augmentation d'à peu près 62-65 000 euros. Donc ces 16 500-là se rajoutent en fait à cette rupture conventionnelle.
Exact. Puisque la progression que vous faites là, ce n'était pas sur la même personne. Puisqu'on n'était pas au courant à l'époque de la négociation qui était rentrée sur cette personne-là.
Donc il y a deux personnes alors?
Oui. D'accord. Tout à fait.
Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe au tourisme, à taxe de séjour, monsieur Lejean.
Oui, c'est tout simplement de passer en conseil municipal le vote de la taxe de séjour pour 2021, pour pouvoir effectivement la transmettre à l'Office du tourisme, qui passera aussi au CODIR, et pour pouvoir après la transmettre à nos professionnels. Il n'y a aucun changement par rapport à 2020. Pas 2001. Là, il y a peut-être quand même du changement. C'est idem que la N-1.
Des questions, Madame Le Golvan?
La remarque que l'on fait tous les ans, pourquoi est-ce que les hôtels de tourisme 4 étoiles, enfin, et l'hôtel de tourisme 3 étoiles, ne sont pas au plafond comme tout le reste?
Et la réponse qu'on vous fait tous les ans, monsieur Lejean?
Écoutez, c'est que par rapport à aux représentants qu'il y a sur le territoire, effectivement, nous avons des 4 et des 3 étoiles, donc on a privilégié ça par rapport à d'autres.
Comme vous êtes...
Non. Comme on l'a fait tous les ans, c'est peut-être pas la peine de développer. Ouais. Il y a d'autres questions sur ce rapport sur la taxe de séjour 2021?
Oui, juste par rapport à... Puisqu'on vote la taxe de séjour, on peut avoir... Vous connaissez déjà la... Je ne pose pas la question, mais vous avez compris.
Oui. Non, incapable. Incapable, comme vous avez vu tout à l'heure, on a fait une modification, rien que sur les problèmes aujourd'hui de tout ce qui est Airbnb à Britain et ainsi de suite. Donc c'est compliqué. On sait qu'on va avoir effectivement moins de TS, hein, parce qu'on a nos gros établissements en hébergement de plein air ou traditionnels qui ont effectivement un peu plus souffert. Par contre, par exemple, sur un établissement comme l'hôtellerie de plein air de la Grande Métairie, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas travaillé avec leur tour opérateur, puisque c'est anglo-saxon, donc effectivement, on a un tiers à peu près de l'occupation qui n'a pas été faite pendant l'été. Par contre, ils ont décidé de rester ouverts jusqu'à fin octobre. Alors, je prédis que l'un va compenser l'autre, alors d'habitude, ils ferment relativement tôt sur le mois de septembre. Donc, c'est encore un peu tôt. On travaille. Prochain CODIR, je pense qu'on commencera un petit peu à avoir quelques données.
Pourtant, enfin, quand on discute avec soit les hôteliers ou les restaurateurs, enfin, tout ce qui concerne ou qui touche au tourisme, visiblement, ils sont assez unanimes à dire qu'ils ont fait une belle saison.
C'est tout à fait ce que je vous disais, sauf sur les grosses entreprises, comme la Thalasso, comme pour prendre cet hébergement, derrière, qui quand même représente à lui tout seul une importante partie de l'hébergement hôtelier de la commune.
Et puis, par ailleurs, Madame Le Golvan, effectivement, juillet-août a été très bon, mais ça ne rattrape pas tout ce qui a été perdu au printemps. Et ça, on le récupérera pas dans l'ATS. Hein. Parce qu'au printemps, on prend par exemple tous la grande métairie qui travaille beaucoup avec une clientèle britannique qui loue les mobilhomes. Là, elle a été totalement absente. Donc ça, c'est de l'ATS qu'on ne récupérera jamais, même avec un bon juillet et un bon août. Donc il y aura probablement une baisse assez importante de l'ATS sur l'exercice. On peut passer au vote ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Toujours très triste des admissions en non-valeur, monsieur Le Jean.
Tout à fait. Donc là, c'est juste le trésorier qui nous demande de prendre en admission en non-valeur pour un montant global de 68,92 euros.
Il y a quand même qu'en France, on est capable de passer une admission en non-valeur de 0,02 euros à un conseil municipal. J'imagine que les conseillers municipaux nouvellement élus, les admissions en non-valeur, ce sont donc des titres émis par la commune, et là, en l'occurrence, essentiellement sur restaurant en colère, et dont les personnes ne peuvent pas payer, quoi. Et au bout d'un moment, le trésorier essaye de recouvrer la somme, mais si, au bout de quelques années, il n'y arrive pas, on l'admet en non-valeur, c'est-à-dire qu'on considère que c'est un...
On va le voir après, puisque il y en a deux à suivre.
C'est un abandon définitif, voilà. C'est pour ça que je disais que c'était triste. Ça, c'est triste aussi que des gens ne puissent pas payer le restaurant scolaire. Donc, j'imagine que s'ils ne payent pas le restaurant scolaire, c'est qu'ils ne peuvent vraiment pas payer autre chose. Donc, pas de vote contre, j'imagine. Pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Un autre abandon de créance.
Voilà. Alors là, on est dans un effacement de dette pour un montant de 659,98 €. Sachez qu'un effacement de dette, ça permet quand même toujours au trésorier, si c'est possible, de relancer, d'avoir un œil pour savoir effectivement, alors que dans l'extinction de créances, nous allons voir dans le point 17, là c'est la suppression totale, perdue, il n'y a plus de recours. Juste la différence entre les deux. Hein. Donc pour le point 16, c'est un effacement de dette de 659,98 €.
Juste, oui, pardon, sur la 16 et la 17, ça correspond à quoi ? Est-ce que c'est aussi du restaurant scolaire, du logement, du...
Il y a un peu de tout, il y a les deux. C'est compliqué, on ne peut pas rentrer dans le détail.
C'est pour une personne ou c'est pour un ensemble ?
Là, c'est pour une.
Et
on ne
pouvait pas dire...
Non. C'est du logement et effectivement du restaurant scolaire. Et dans la deuxième, pour répondre, puisqu'ils sont un peu liés, là, c'est une entreprise qui n'existe plus pour l'occupation du droit public. Du domaine public. Pardon, pas du droit. Du domaine. Je suis fatigué ce soir.
D'autres questions sur Madame Le Golvan ?
Non, juste une remarque, justement, par rapport à l'effacement de la dette, si ça correspond à de la cantine scolaire et du loyer. Je pense que Sylvie voit où je veux en venir. Ces personnes-là ont été suivies ou...
Je ne sais pas.
On ne connaît pas leur nom, hein. C'est au niveau du CCAS qu'ils sont suivis. Il n'y a pas de porosité entre les deux.
Je n'ai pas eu connaissance de ce...
D'accord. Ce serait bien de se rapprocher, juste si les personnes sont toujours sur Carnac, en tout cas.
Ça date de quelques années, en général.
En plus.
Ah bah oui, ah oui. Quand ça arrive...
Le trésorier essaye pendant des années de recouvrer, et donc quand ça arrive au conseil municipal, c'est que ça fait 4-5 ans qu'il a essayé de recouvrer la dette et qu'il n'y parvient pas. Ouais, c'est vraiment en extrême fin de parcours.
Ouais, c'est presque dommage qu'on n'ait pas, enfin, on l'avait déjà évoqué, mais une information au niveau du CCAS pour... pour rencontrer
les
familles.
Je pense que le droit ne le permet pas forcément, parce qu'il n'y a pas de porosité entre, entre la comptabilité publique et les affaires sociales. Et c'est bien d'ailleurs, parce que sinon, enfin, ça partirait dans la nature et tout le monde saurait ce qui se passe dans une petite ville comme ça. Quand même, voilà, même si c'est triste d'abandonner une créance, je pense que le fait qu'il y ait une certaine confidentialité sur ces choses-là, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il y a des... On peut voter les deux, non ? Est-ce qu'il y a des votes contre cet effacement et cette extinction ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, rapport numéro 18 sur l'indemnité de gardiennage de l'Église.
Nous avons la chance d'avoir un gardien qui s'occupe bien de notre Église et qui n'oublie pas de nous dire qu'il faut faire certains travaux. Donc, pour le remercier, on lui propose une indemnité annuelle de 479,86 € pour l'année 2020. Voilà, l'indemnité annuelle correspond au plafond indemnitaire résultant des relocalisations illégales jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, sans autre délibération. Donc, ce sera comme ça pour tout le mandat.
Ça veut dire qu'il touchera 479,86 € tous les ans jusqu'à la fin de ce mandat.
S'il veut bien les prendre, oui.
D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ?
C'est nouveau, ça, ou... Parce que je n'ai jamais vu auparavant, moi. Mais on ne lui versait pas. Pardon ?
Il y a des délibérations, et en fait, on a trouvé le lien de l'actualiser. C'était une demande de la préfecture de l'actualiser, de délibérer devant le conseil municipal pour que vous sachiez que ça existe.
D'accord, oui, on ne savait pas.
Ça existait déjà, mais je pense qu'on ne l'a pas voté depuis longtemps, effectivement, parce que... Ouais. D'accord. Le micro. Et pas d'abstention, pas de vote contre ?
Juste... C'est pas Dieu qui garde l'Église, normalement ?
Normalement, mais monsieur Guimard, vous avez pu constater qu'à Notre-Dame de Paris, il n'avait pas été très vigilant, donc on préfère avoir un deuxième gardien, si ça ne vous dérange pas. Mais c'est une bonne remarque. On passe au rapport numéro 19, le versement d'une subvention à l'association AEP. C'est madame Cathy Isoard, je crois, qui va aussi faire son premier rapport en conseil municipal ?
Oui,
comme monsieur Cardozien ? Comme oui. Une grande ?
Comme une grande. Donc en fait, c'est simplement la poursuite de la collaboration entre le musée et donc l'association AEP qui donc a pour objet de publier des travaux scientifiques. Donc c'est important pour le musée puisque en fait ça lui permet de bénéficier des attributions officielles des découvertes, notamment AEDIC. Et donc, la participation financière sera un argument pour récupérer l'éventuel... s'il y a une demande, par exemple, sur AEDIC, la mairie d'AEDIC. Donc, en fait, cette participation financière permet au musée d'avoir la primauté sur les découvertes. Voilà. Et donc, c'est une collaboration qui date de 2007, donc qui continue chaque année...
Des questions sur ce rapport ? Bravo, madame Isoard.
Merci.
Bon, il y a Loïc qui est là. Hein.
Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur, alors j'ai trois noms là. J'ai monsieur Lejean, monsieur Marc Albert et madame Catherine Alain. Demande de subvention sur les circulations douces au titre de la dotation de solidarité pour l'investissement local. Donc, on va commencer par les chiffres, monsieur Lejean, et puis Catherine dira peut-être un mot.
Ouais.
C'est le conseil municipal des baptêmes. Ouais, donc on fait des premières interventions.
Donc c'est juste de faire une demande de subvention pour effectivement au niveau de la DSIL, dotation de solidarité pour l'investissement local, sur les circulations douces. Donc on a fait, c'est un prévisionnel, je pense que Catherine vous expliquera beaucoup mieux ce qui est à faire. Il fallait le déposer, donc c'est ce qu'on a fait pour pouvoir bénéficier de subventions à ce niveau-là. Ah, j'ai pas mis le micro, oui.
Mais, madame Alain
Oh, simplement pour préciser que c'est un projet au niveau de la commune qui est important de développer les mobilités douces et les pistes cyclables et que c'est l'occasion effectivement avec la possibilité d'avoir des subventions tant au niveau de l'État par la DSIL que par l'apport également du département de pouvoir le faire financer en grande partie et de garder une part pour la commune qui est finalement relativement modeste au vu de l'ambition du projet qui est de près d'un million d'euros.
Bravo aussi. C'est le conseil municipal des baptêmes. Est-ce qu'il y a des... En général, les demandes de subventions font l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Laborde ?
Une petite remarque, je pense qu'il y a une coquille. C'est précisé que sur on peut bénéficier d'une subvention de 30% sur 750 000 euros. Et là, dans le tableau, c'est 227 799. Donc ça ne correspond pas exactement, c'est juste une petite coquille, je pense.
C'est exact. On aime bien glisser des petites coquilles de temps en temps pour voir si l'opposition lit vraiment les rapports. Et celle-là, elle est faite exprès. En fait. Donc bravo, monsieur Laborde. C'est pas sa première intervention, lui. Il est déjà intervenu. On pourrait d'ailleurs faire une petite cagnotte. C'est 1 euro pour celui qui trouve une boulette dans un rapport du Conseil. Et puis à la fin du mandat, on le boit à l'apéro. Non ?
Peut-être qu'il y a une boulette.
Oh bah mince !
C'est un peu plus complexe que ça.
Tom vient de perdre, c'est 1 euro.
Pourtant, c'est précisé dans le tableau, 30% d'une dépense subventionnable plafonnée à 750 000 euros. Donc... Oui, donc c'est 30% de 750 qui font bien 225 000 euros. Et non pas 227 799.
Donc il a raison.
Si vous regardez l'astérix que concerne...
On va vérifier, Tom, on va vérifier et on te versera le 1 euro si effectivement c'est une boulette. Hein, j'insiste. Madame Le Gaulois.
Donc cette demande de subvention, évidemment, on va la voter. Par contre, on dit que c'est dans le cadre du plan vélo et qu'il fallait présenter un dossier. Donc votre dossier a dû être préparé puisque le 30 septembre, c'est presque demain. Ça aurait été intéressant qu'on nous présente peut-être ce plan vélo puisque vous l'avez travaillé. Et voilà, je crois que ça aurait été souhaitable en tout cas. Donc vous ne l'avez pas.
Là tout de suite à le présenter, non. Mais c'est vrai qu'il fallait réagir rapidement par rapport aux aides qui ont été débloquées elles-mêmes rapidement.
Parce que, bien sûr, ça, je me doute bien qu'il fallait être réactif. Mais depuis pas mal d'années, on sait que tout ce qui est circulation douce, en tout cas, les Carnacois sont sensibles à cela, attendent aussi quelque chose. Et nous, en tant qu'élus, quand on nous pose des questions, là, on peut dire qu'on a voté une subvention, mais quelque part, on n'a pas. Ça aurait été judicieux, quoi. Vous l'aviez. Pardon ?
C'est...
Oui, mais il faut présenter un dossier, Pascal. Et dans ce dossier, il y a le plan du cadre, plan vélo, quoi. Donc, oui, mais on parle argent, mais il faut présenter un projet. Donc le projet, vous l'avez sûrement travaillé pour pouvoir présenter le dossier.
Catherine, qui est très... Le sujet lui tient à cœur. Absolument. Ce sera le plaisir de nous le présenter assez rapidement.
Absolument. Et le projet sera présenté. Mais entre les grandes lignes qui permettent de demander une subvention et un véritable projet qui réponde à toutes vos questions, il y a encore du travail à faire. Mais comptez sur moi pour suivre le dossier et pour vous présenter le projet.
Alors, je comprends donc que tout le monde est d'accord et qu'on vote ce rapport à l'unanimité. Je vous remercie. Alors là, j'ai deux noms.
C'est
moi. J'ai Monsieur Lejean et Monsieur Marc Albert.
J'ai bien raconté.
Sur le marché public de propriété urbaine, autorisation d'engagement de la procédure de consultation.
Oui, je vous ai parlé tout à l'heure dans la décision modificative numéro 1 d'un rajout pour la propreté urbaine. Donc on revient, et là on va rentrer dans le détail, le marché ayant été caduque derrière. Donc ce marché représente deux choses. Vous avez le nettoyage de la place du marché lors des deux marchés hebdomadaires et le nettoyage de la propreté urbaine autrement. Et donc, si vous voulez, ce marché était caduque, on est en train de le relancer. Entre-temps, nous avons eu le Covid. Le Covid nous a permis de mettre différentes choses en place, d'abord, dans un premier temps, pour réouvrir notre marché rapidement. Et avec toute l'équipe, avec Gérard et toute son équipe au niveau de la propreté urbaine, on a aussi profité sur un problème qui était un peu récurrent, sur la reprise des emballages vides, puisqu'on n'était plus arrivé que l'un des seuls marchés sur le Morbihan où on prenait encore tous les emballages vides et on avait une problématique le dimanche, c'est qu'on récupérait aussi les ventes ou les emballages vides des commerçants qui avaient fait le marché au niveau du samedi à Quibon. Donc on leur a demandé de reprendre l'ensemble de leurs emballages vides et on a redéfini notre organisation, ce que vous voyez qui est écrit, sur une haute saison, une moyenne saison et une basse saison. Et sur une base de 3 prestations qui est faite aujourd'hui par Veolia, dans une qui est la BOM, qui est la benne à ordures ménagères, donc qui est supprimée parce que effectivement ils repartent avec leurs déchets. On a ouvert Gérard a ouvert un conteneur enterré pour récupérer les déchets qui pouvaient pas repartir avec. Donc on a quand même les sacs poubelles, les différentes petites choses, donc qui est réservé pour les commerçants du marché. Autrement, ils doivent repartir, pas encore parfait, il y a quelques couacs, hein, avec leurs cagettes, leurs cartons et leurs cintres, puisque ça aussi c'est un gros problème. On a gardé le balayage avec l'accompagnateur. Le balayage sera fait, effectivement, aujourd'hui on est en train de construire une demande où le balayage, on l'aura avec Veolia en haute saison, c'est-à-dire pendant le mois de juillet, août, le mercredi et le dimanche. En moyenne saison, on l'aura que le dimanche, puisqu'on considère que le mercredi, on est capable de faire, de nettoyer, il y a un peu moins de commerçants, avec notre balayeuse, avec l'équipe du CTM. Et dans la basse saison, ce sera le CTM qui fera la prestation. Lorsqu'on avait relancé l'appel d'offres, on est passé de 60 à 90 000 pour le nettoyage du marché. C'est le premier poste de dépense sur le marché hebdomadaire. Que tout le monde soit conscient. L'objectif est de se dire, hop là, comment ça se fait? Alors, on a une explication, bonne ou pas bonne, ceci dit, ça ne nous convenait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a rendu le marché caduque et qu'on a retravaillé dessus. Et à un moment, on s'est dit, comment on retravaille intelligemment? Et en supprimant la BOM, on espère aussi avoir d'autres entreprises qui puissent répondre. Puisque là, systématiquement, à chaque fois, on avait que Veolia qui répondait. Donc, on se retrouvait un peu pris. Puisque les autres qui pouvaient répondre, donc une entreprise de tech, se retrouvaient un peu coincés à cause de la benne ordure ménagère. Pas pour l'amener, pas pour récupérer les déchets, mais pour vider les déchets. Puisque je vous rappelle que l'usine d'incinération de Plouarnel, elle est gérée aussi par Veolia. Donc, c'est là que ça devient un peu compliqué. Et qu'on n'était pas du tout contents. Donc, on a à renégocier ça. Par contre, derrière, on est en train de lancer l'appel d'offres et il faut effectivement avoir un budget. Donc, on a repris le budget estimatif qu'on avait avant. Ça donne une marge de sécurité. Le but, c'est qu'il soit en dessous du montant qui est affiché.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions? Je vous pose... Ah, si, monsieur Luneau.
C'est pas un peu dommage de laisser chaque commerçant repartir avec des tonnes de cagettes et de... Donc en carton et en bois, qui sont groupés, triés, propres, toutes groupées. Il n'y a pas quelque chose
alors,
à faire
parce on que est en train de réfléchir.
C'est autant de commerçants qui vont repartir eux-mêmes les mettre...
Ils vont à la déchetterie.
À la déchetterie, et la déchetterie est à un kilomètre et demi.
Oui, peut-être. Enfin le camion, ouais. La benne à ordures ménagères, ce sera pas mieux. Hein, ouais. Après, non, l'idée, c'est qu'il faut effectivement travailler avec Catherine. Ton idée, mais ta question, je vais aller un peu plus loin. On travaille avec Catherine pour savoir comment on peut recycler ça. On avait fait une première démarche, entre autres sur les cagettes, où on est allé voir, bien sûr, le dolmen des possibles, mais bon, ils vont en reprendre une petite partie. L'été, on en fait, 100 ou 200 fois plus. On a posé la question à Enréo, je vous rappelle, hein, qu'il y a une piscine qui est avec une chaudière au bois. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des agrafes. Il y a donc quelques petits soucis. Donc, on n'a pas encore la solution, mais on est en train d'avancer pour recycler les cartons. Recycler les cagettes et continuer à avancer avec Catherine, hein, qui est là pour ça. On travaille. Alors, pour l'instant, il fallait résoudre déjà un premier problème et après, d'avancer et de proposer un nouveau service aux commerçants non sédentaires qui sont sur le marché, qui ont effectivement la possibilité de déposer des cartons, l'objectif dans une benne, puisque ça, ce sont des produits recyclables. Voilà. Sans cours.
Merci.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre, il y a une entreprise Factotum ici qui fait ça notamment. Je ne sais pas si ça l'intéresse.
Alors, justement, il est prévu de la rencontrer.
Après, c'est des volumes qui sont. C'est pas avec sa petite camionnette qu'elle peut faire ça. Hein. Si ça l'intéresse, il va falloir qu'elle investisse parce que c'est des gros volumes quand même. Mais elle travaille déjà très bien sur la commune. Hein. C'est une excellente initiative. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, Morbihan Énergie, la convention éclairage public pour le boulevard de la plage.
On a fait une convention avec Morbihan Énergie. Lorsqu'on a fait les travaux du boulevard de la plage, on a changé tous les candélabres. Et les anciens candélabres n'étaient pas très, très, très vieux. Et donc, on a pris l'initiative de les récupérer pour les réinstaller ailleurs. Donc, on les a réinstallés une partie chaussée des Bernaches. Et ceux qui restent, on les remis dans un autre boulevard, qui est le boulevard de l'Océan. Et donc, ça va nous coûter la somme de 28 560 euros TTC. Et donc, la plage de Saint-Colomban va récupérer les candélabres qui sont en meilleur état que ceux qui sont à Saint-Colomban, et les candélabres qu'on avait mis à l'époque au boulevard de la plage. Ils ont été stockés, donc on a mis, comme je disais, une partie chaussée Bernache, on va finir de les installer à Saint-Colomba.
Rien ne se perd, tout se transforme, tout se réinstalle. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette réinstallation de lampadaires à un autre endroit? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, toujours, lancement d'un pré-diagnostic de travaux de l'église Saint-Cornélie, qui en a bien besoin.
Donc on a fait une réunion avec le responsable de la DRAC qui va s'occuper de la, la réhabilitation, si vous voulez, la remise en état de la... de l'église, chacun le dit à sa façon. Pour l'instant, il faut qu'on lance les études. Ce monsieur doit nous donner le compte-rendu de la visite qu'il avait fait, qu'on attend toujours. Donc, une fois qu'on aura son compte-rendu, on pourra lancer un diagnostic sur l'édifice. On aura des aides de l'État à 50% de l'État et 25% du département. Ensuite, une fois qu'on aura avancé là-dessus et qu'on aura un programme de travaux, il y aura la Fondation du patrimoine qui viendra également nous apporter sa contribution. Donc pour l'instant, ils sont au courant qu'on veut réhabiliter, réaménager, remettre en bon état l'église. Et du coup, ils sont d'accord pour nous aider. Et ils attendent qu'on ait un peu tous les documents nécessaires pour qu'ils puissent commencer à travailler là-dessus. Et donc, voilà, on a eu la vie, on en a pour 50 000 euros, pour 40 000 euros, pardon, TTC pour le moment. On a eu un avis favorable de la commission finances et un avis favorable de la commission de travaux du 4 septembre. Donc, il est proposé de lancer la consultation pour le lancement du diagnostic, d'autoriser le maire ou le conseiller délégué à demander toute subvention pour cette opération.
Des questions, des commentaires?
Et juste pour comprendre, sur les 40 000, en fait, il y a la moitié qui va être prise en charge par l'État et 25 par le département, donc il nous reste 10 à notre charge. Ou c'est pas comme ça que ça se calcule?
C'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, sur le budget, on a mis 40 000 TTC. On attend d'avoir le compte rendu du monsieur de la DRAC qui va nous dire il y a ça à faire. Et donc, on demandera un diagnostic. Un rapport du diagnostic, on verra combien on nous demande pour faire le diagnostic. Nous, on a mis 40 000, parce qu'il faut bien mettre une somme pour commencer. Ce sera peut-être 25 000 ou 45 000. Aujourd'hui, on n'a pas précisément le montant. Ce serait bizarre que ça tombe tout rond, quand même. Voilà. Comme les travaux, on ne sait pas. On fera sûrement par tranche. Hein. Il y a l'éclairage, il y a le toit qu'on va faire sûrement dans l'automne. Il y a tous les joints, il y a pas mal de choses. Donc, il va nous amener la liste. Et puis, on va faire sûrement un PPI ou comme il voudra.
La PCP.
Ou une APCP pour arriver à travailler dessus. Mais je pense qu'il y en a pour un moment. Hein.
À 10 ans.
Ça ne va pas être fait tout de suite. Enfin, si, ça, on va commencer tout de suite, mais ça ne va pas être fait. Voilà. Donc, on n'a pas les budgets précis. Il faut bien commencer à mettre une somme pour y arriver. Voilà.
Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions, unanimité, je vous remercie. Monsieur Servet, lancement d'une étude de programmation tant attendue sur la rénovation de notre musée de la préhistoire.
Oui, très bien, vous avez bien résumé, tant attendue, effectivement. Donc le musée de préhistoire de Carnac, on n'a pas connu ses débuts, mais c'était il y a près de 140 ans. Après un petit musée quasi en face de la mairie sur le petit square, chacun par contre connaît le musée d'aujourd'hui qui est installé dans l'ancien presbytère depuis les années 80. Si effectivement la qualité des contenus est indiscutable, chacun conviendra, et on le sait depuis quelques années, que le musée est très à l'étroit. Et cette étroitesse empêche au musée de s'épanouir pleinement et de devenir un musée de référence à l'échelle nationale et internationale pour le néolithique et le mégalithisme, un outil de découverte et d'interprétation des sites mégalithiques de Bretagne, des territoires retenus comme sites UNESCO, dont évidemment Carnac, et bien entendu un lieu vivant et accessible, remarquable par sa muséographie innovante, à mi-chemin entre une muséographie classique centrée sur l'objet et un centre d'interprétation. Je rappelle qu'un PSC, un projet scientifique et culturel, avait été établi il y a près d'une dizaine d'années, de très haute qualité, et qui pointait la nécessité pour le musée de préhistoire de Carnac de s'agrandir, de pouvoir s'épanouir pleinement, de l'inscrire pleinement dans l'espace public, et d'assurer une meilleure visibilité, de créer une véritable interaction entre le musée et le centre-bourg pour à la fois renforcer son attractivité et puis, bien entendu, en faire un acteur de dynamisation du centre-bourg. Le PSC avait fait apparaître un manque cruel de surfaces de tout type, hein, de destination, que ce soit évidemment les surfaces d'exposition permanente, mais un manque complet, même une absence totale d'espace d'exposition temporaire, une étroitesse des surfaces d'accueil, de médiation, des divers locaux fonctionnels ou techniques, etc. Donc dans cet objectif de redimensionner le musée et de lui redonner toute la place qu'il mérite, la commune, en accord avec les services du ministère de la Culture et de la Préfecture, notamment à l'issue d'une réunion au cours du mois de juillet de véritable relance de ce projet musée, eh bien la commune soumet à l'étude de programmistes trois sites qui seraient susceptibles d'accueillir le futur musée, soit le site actuel avec rénovation et agrandissement du bâtiment, soit envisager une permutation, un échange entre les bâtiments qui abritent aujourd'hui le musée et la mairie, soit une construction neuve, totalement neuve, sur le site de l'ancien restaurant scolaire qui reste de relative centralité. Voilà. Et donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser le lancement d'une consultation pour l'étude de programmation sur les bases des options ci-dessus. Juste pour que chacun comprenne bien, là il s'agit de lancer une étude de programmation pour aller désigner un cabinet ou un groupement d'intervenants qui va définir la programmation, c'est-à-dire étudier sur la base du PSC véritablement de formuler les besoins du musée de demain, et puis de diagnostiquer les trois sites précités et de vérifier l'adéquation ou la meilleure adéquation en fonction de multiples critères et d'approches diverses, etc., entre les besoins du musée de demain sur la base du PSC et les sites possibles envisagés. Une fois qu'on aura choisi ce programmiste qui fera ce travail, il va intervenir un peu en deux temps. Dans une première phase, il va vérifier cette adéquation. On définira le choix d'un site, et ensuite il poursuit dans une deuxième moitié de son intervention, de sa mission, véritablement le diagnostic détaillé et pour aboutir à une proposition architecturale et muséographique qui va donner lieu, qui va être le document qui va permettre ensuite, dans un second temps, d'aller faire un appel d'offres et de désigner un maître d'œuvre et architecte qui, lui, finalisera le projet pour qu'il puisse se réaliser. Voilà, en exécution de travaux. Donc voilà, la délibération, et donc il est proposé aux membres du Conseil d'autoriser le lancement de cette consultation d'études de programmation.
Alors, ladies first, Madame Le Goldman d'abord. Si Monsieur Luneau en est d'accord.
Donc, il y avait déjà une étude qui avait été faite pour le musée. Et d'ailleurs, il y avait un programmiste, vous les aviez reçus en 2014. Et les propositions qu'ils avaient faites à l'époque, on retrouve deux des propositions, enfin, des lieux où on pouvait des propositions qui avaient été faites. Il y en a deux qui sont identiques, c'est-à-dire on garde le musée où il est actuellement. On échange les bâtiments abritant le musée et la mairie. Et il y avait une troisième proposition.
Non, pas du tout.
Non, c'était pas, il n'y avait pas de proposition d'échange.
Non, non, il y avait le effectivement, il y a donc eu par délibération du conseil municipal de 2011, de 2013, pardon, il y a eu un cabinet et un programmiste qui a été désigné, qui a travaillé sur la base du PSC, du document PSC, mais le seul principe d'étude était le musée actuel et agrandissement. Alors, avec dans cette notion d'agrandissement, il y avait effectivement plusieurs options et plusieurs scénarios qui avaient été envisagés et qui notamment prenaient en compte l'utilisation possible de 2-3 bâtiments communaux qui étaient la maison, ce qu'on appelle la maison Loreau, hein, qui est utilisée aujourd'hui par le Bagad, et la chapelle de la congrégation et le grenier au grain. Il n'y avait aucune autre option. Donc c'était le musée actuel et ses agrandissements de diverses façons, avec diverses propositions, mais c'était toujours que le musée actuel.
Ah, moi, j'ai lu ça. Alors, le fait que construction neuve sur le site de l'ancien restaurant scolaire, quand on voit ça par rapport justement à ce qu'avait proposé le premier programmiste, enfin l'autre étude qu'il avait faite, est-ce qu'on ne doit pas, enfin, on ne visualise pas ici le fait que vous souhaitiez transférer le musée sur le site du restaurant scolaire ?
Je ne comprends pas la question.
Bah, c'est-à-dire que il y a déjà eu l'étude qui était faite disait qu'on pouvait conserver le musée au lieu actuel. Il y avait aussi eu une possibilité d'échange entre les bâtiments abritant le musée et la mairie. Ça, Monsieur le maire l'avait évoqué, mais en effet, c'était peut-être pas. J'ai pas lu tout le compte rendu.
Non, c'était pas dans le compte rendu. C'était pas dans les
études. Simplement une idée dans le débat, mais elle a jamais fait l'étude d'une étude d'un programmiste, jamais.
Tout à fait. Mais l'actuel musée, oui, on peut dire oui quand même. Et construction neuve sur le site de l'ancien restaurant scolaire. Quand je lis ça, enfin moi je me disais que en écrivant cela, c'était quand même orienté et que c'est parce que c'est quand même nouveau. Enfin c'est nouveau et c'est on l'a jamais évoqué cette idée-là.
Alors
il y a
non,
eu plein de débats autour du.
Alors c'est pas du tout orienté. Hein. D'abord la première étude qu'avait fait le programmiste, elle a pas donné satisfaction pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, il utilisait des bâtiments qui étaient dans l'environnement immédiat du musée et dans lequel il voulait mettre les réserves. Mais sauf que, en termes de, je dirais, d'utilisation au quotidien, d'avoir plusieurs sites comme ça avec des déplacements de collections qui sont extrêmement précieuses, fragiles, la municipalité, enfin, et d'ailleurs, on décidera pas tout seul, hein, parce qu'il y a les services de l'État, il y a les musées de France, c'est un musée de France, je vous le rappelle. Et donc, ce projet n'avait pas été retenu parce que, effectivement, en termes de logistique, on n'avait pas suffisamment de mètres carrés pour abriter l'ensemble des collections, et donc elles étaient déportées. D'ailleurs, j'avais entendu un moment, on parlait même aussi de Montauban, éventuellement. Et donc ça a été complètement écarté parce que c'était pas un mode de fonctionnement satisfaisant. Donc aujourd'hui, on a souhaité pas enfermer justement le dossier, au contraire, c'est de laisser la possibilité au conseil municipal ou à un programmiste de choisir vraiment trois choix complètement différents. Au terme d'une étude de programmation, donc soit le musée actuel, mais avec un agrandissement, mais non pas une utilisation de bâtiments autour. Ensuite, un switch, parce que effectivement, c'est une idée un petit peu iconoclaste, mais on a ici un bâtiment non seulement qui donne vue sur le tumulus Saint-Michel, mais qui a la particularité d'avoir un rez-de-chaussée avec une surface très très importante de plein pied, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas, mais enfin je pense que tous les conseillers municipaux le connaissent, un parking qui est aujourd'hui un parking mais qui est avec des réserves totalement secs, qui pourrait permettre une fluidité avec ce fonctionnement du musée. La partie cantine, voilà, bon, moi j'ai une conviction, hein, mais qui n'est pas d'ailleurs, je ne la livrerai pas parce que je pense qu'il faut chacun que fasse son lit. La partie cantine, c'est simplement pour avoir la possibilité de choisir d'un geste architectural complètement neuf, nouveau. C'est-à-dire que si on transfère les musées ou si on agrandit le musée, globalement, on aura les bâtiments qu'on connaît, améliorés, agrandis, mais globalement, on aura quelque chose de, je dirais, d'assez classique qui existe déjà dans le paysage carnacois. La volonté de rajouter éventuellement la cantine, c'est de se dire voilà, si on avait un architecte ou même les musées de France qui nous disent, ben voilà, monsieur le maire, on va faire un musée contemporain de ex nihilo sur un espace qui est quand même central, parce que je pense que là où on a tous une conviction, c'est qu'il faut que ce musée reste central, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop l'éloigner du bourg pour que les visiteurs puissent voilà, aussi bénéficier au bourg, à son commerce et à sa vie. Et donc on avait cette opportunité. Moi, j'ai une autre idée pour ce terrain à titre personnel, mais je pense que c'était important d'avoir un vrai choix. Et c'est pour ça qu'on l'a ajouté. Et franchement, enfin voilà, je parle sous le contrôle de ceux qui mènent le projet. C'est absolument pas une façon de, je dirais, de préempter ou de faire semblant de dire qu'on va étudier deux solutions pour adopter celle-là à la fin. Et d'ailleurs, ben, je vous donne rendez-vous quand on aura tous choisi. Ce sera pas forcément celle-là. En revanche, qu'on ait une vraie possibilité d'un geste architectural neuf. Pour un musée, je pense que c'est important d'avoir cette option et pas seulement les deux premières. Monsieur Luneau ?
Mais vu l'éventuel succès mondial annoncé du musée, c'est pas la même clientèle qui ira au musée et acheter du pain dans le bourg et faire ses courses. Et il faut du parking si vous faites un très beau musée. Et est-ce que c'est pertinent de mettre un monument comme ça au milieu du bourg et qui va forcément avoir besoin de parking et qui va être beaucoup de circulation.
Non, mais justement,
avec tout l'éventuel classement patrimoine mondial de l'UNESCO de l'ensemble des sites, c'est boucher le bourg au Carnacois quand même.
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
Bah...
Pour la même raison qu'on n'a pas souhaité installer un supermarché en périphérie, parce que c'est des choses qui vous aspirent, et on sait très bien que dans beaucoup de villes en France, on a beaucoup de mal à faire vivre les centres-bourgs. Il y en a beaucoup qui sont totalement en déshérence avec des magasins qui ferment. Au même titre que l'office du tourisme est en plein bourg et génère du flux, alors qu'on aurait pu dire, ben, on va le faire ailleurs avec un grand parking en bitume où tout le monde viendra en voiture, c'est aussi la conviction de penser que la consommation muséale n'est plus forcément la même qu'avant et qu'on ne vient pas forcément avec sa voiture sur un grand parking bitumé à l'extérieur des villes et que ce n'est pas parce que la caricature de dire que le visiteur du musée ne va pas acheter sa baguette, mais il peut très bien ensuite aller au restaurant dans le bourg, aller boire un verre au bar breton, et que ça génère du flux dans la centralité, alors que générer du flux à l'extérieur de la ville n'est pas forcément ni bon pour l'économie, ni bon pour l'environnement, parce que pour le coup, on va bétonner des lieux qui ne le sont pas aujourd'hui, et on va faciliter, et je dirais même pousser à la consommation de la voiture, ce qui n'est pas forcément notre biais.
Et le programmiste, il a donc eu une sorte de volonté de la commune annoncée de...
Ah bah le programmiste, il aura un cahier des charges, c'est-à-dire qu'il
défini
va être
par...
qui va être défini par, oui. par l'ensemble. C'est-à-dire, il y a les musées de France, il y a la DRAC, il y a la commune, il y a tous les acteurs qui seront autour de la table. Encore une fois, ce n'est pas le seul choix de la municipalité. Quand on est autant subventionné, on doit montrer. Donc, il aura un cahier des charges, effectivement, mais qui doit rester le plus ouvert possible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'emmener là où on voudrait qu'il l'emmène, mais il faudra qu'il nous propose, évidemment, en fonction de ce cahier des charges, ce qu'il pense lui, parce que c'est lui le spécialiste, c'est pas nous. Hein. Moi, en musée, j'y connais rien. C'est à lui de nous, au terme de cette étude, de nous dire quel est, à son avis de professionnel, le meilleur endroit pour implanter le musée.
Mais il part pas de zéro, c'est-à-dire qu'on lui donne déjà trois choix.
Non, mais oui, mais alors,
forcément.
Parce qu'il pourrait faire une étude plus poussée sur. On sait que voilà, quand on implante un musée d'importance mondiale dans une ville de cette taille-là, ça génère ci. Et pour avoir un... Que c'est parti pour...
Mais d'abord, on ne peut pas le mettre n'importe où. Il faut qu'on le mette là où on est du foncier. C'est-à-dire qu'on ne va pas...
Oui, il y a de belles OAP.
Il ne suffit pas d'avoir des idées. Bah, par exemple.
Oui.
Mais en l'occurrence, on est convaincu qu'il faut le garder en centralité. Donc ça part de cette conviction. Je pense que là, la majorité municipale est totalement unanime sur le sujet.
Mais à ce sujet-là, sur la notion de centralité, bon, sans rentrer dans le détail et faire des lectures de documents, mais le PSC de 2011 le mentionnait déjà. Les avis de la DRAC ou des musées de France sur le PSC confirmaient clairement l'intérêt et la nécessité d'une centralité. Donc ça, c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui. Je rappelle que même si dans dans la forme de dire le musée presbytère devait s'agrandir avec des locaux autour, et ça, on l'a dit, c'était pas une solution viable dans le fonctionnement du musée. Il y a près de 10 ans, quand le programmiste a été désigné, il a été désigné pour travailler sur ces données-là, qui était le maintien dans une centralité, etc. Donc ça, c'est un sujet qui existe et qui est récurrent et qui est presque intemporel depuis 15 ans qu'il est évoqué le musée. Donc voilà, et j'allais dire qu'une multitude de grands musées ou moyens musées sont dans des centralités. Et enfin, pour finir sur un dernier point que vous abordez, le programmiste, effectivement, on le guide dans quelques éléments, mais en aucun cas on fait le boulot à sa place. Et c'est pas tout à fait une page blanche qu'on lui donne, mais elle est peu précise. Et sachez que pour bon nombre d'études de programmation sur d'autres projets musées depuis ces 10-15 dernières années, c'était pas 3 sites, c'était un site. C'est-à-dire que les communes, enfin, ou les collectivités, pour élargir, ciblaient un point et disaient au programmiste, vous me faites une étude pour me faire rentrer le musée à tel endroit. Là, on lui propose d'étudier ou de préétudier 3 sites. Donc il y a une ouverture dans l'approche qui est bien plus importante que le grand classique de cahier des charges à un programmiste.
Merci.
Il n'y a pas d'autres remarques. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, entretien des pistes cyclables intercommunales, convention avec ACTA.
On avait fait une délibération en 2018 relative à l'adoption du schéma de mutualisation. ACTA donc a fait les pistes cyclables, ou est en train de les faire parce qu'elles ne sont pas tout à fait finies, qui rejoignent la Trinité, Carnac et Plouarnel. Et donc, ils n'ont pas de personnel pour faire l'entretien. Donc, c'est la commune qui fera l'entretien à travers cette convention. Et donc, après, on refacturera 2 fois par an les travaux effectués par la commune. Je peux vous donner les tarifs si vous voulez. C'est les coûts horaires non assujettis à la TVA. Donc, un agent d'entretien ménager, ce sera 18 euros. Un agent technique, 25. Un agent de catégorie B, ce sera 30 euros. Une catégorie A, ce sera 35 euros. Un véhicule inférieur à 3 tonnes 5, ce sera 10 euros. Un tractopelle sans chauffeur, 30 euros. Avec chauffeur, 54. Un poids lourd, 35. Et les autres engins, 9 euros.
Chauffeur moustachu, c'est combien?
Voilà. Et donc, on fera le tour. Il n'y a pas marqué. Sinon, ils n'ont pas encore marqué. Donc, tous les 6 mois, quand on aura fait l'entretien, on leur verra une petite facture qu'ils nous payeront. Et puis, voilà. C'est juste ça, la convention.
Des questions sur cette convention d'entretien des pistes cyclables? Pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Concession de services publics, exploitation du tennis club de Beaumère, monsieur Lejean.
Oui, merci. Je ne donne pas le micro, ça n'a pas de facile. C'est juste la DSP. Suite au problème, la crise sanitaire, on avait pris des dispositions qui ont été votées en conseil municipal pour un soutien économique aux professionnels. Donc, entre autres, l'annulation de tout ce qui était location des biens publics. Seulement, il y a juste à rajouter, effectivement, je ne l'ai pas vu dès le départ, il faut savoir que les bâtiments et la surface du tennis club de Beaumère est soumis à une taxe foncière. Donc, c'est dans la DSP, c'était prévu, et cette taxe foncière sera due par le tennis. Le loyer, non, mais la taxe foncière, oui.
Juste, je reviens un petit peu à la... Enfin, j'ai posé un peu la même question tout à l'heure. Mais là, l'exploitation du tennis de club de Beaumère se fait essentiellement pendant l'été. Donc, c'est vrai qu'on nous avait présenté au dernier conseil une liste où, en effet, on faisait, grâce à certains commerçants, de payer le loyer pour les aider. Mais dans ce cadre-là, est-ce que vous avez eu son bilan d'été? Parce que j'imagine que... 21 000 euros.
On le tient, oui, nous, on en avait qu'un. Pardon. Justement, je viens de l'avoir au téléphone avant le conseil municipal. Il me demandait, puisqu'il envoie les éléments à son expert comptable, hein, la saison vient de se terminer, il faut un petit peu de temps quand même, qu'on récupère les factures des fournisseurs, qu'on envoie, qu'on enregistre tout ça et qu'on analyse tout ça avec le cabinet comptable. Donc, il me demandait justement la problématique d'avoir un courrier pour son exonération, pour que son comptable puisse proviser et en tenir compte. Effectivement, je lui ai tenu au courant qu'on passait ce soir, puisque en plus j'avais oublié de le prévenir, lui non plus, qu'effectivement je ne savais plus qu'il y avait une taxe foncière sur ce bâtiment. Nous avons une taxe foncière sur quelques bâtiments qui appartiennent à la commune. Il y a le tennis de Beaumère, il y en a un autre qui m'a toujours surpris, c'était la trésorerie. Par définition, on loge l'État, il est là pour récupérer les impôts locaux, et on mettait un impôt local sur ce bâtiment. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça, il y a des choses bizarres en France. Et donc, je l'ai tout simplement prévenu, je pense qu'on l'aura rapidement, et on le verra rapidement en commission finance, effectivement, son exploitation derrière. Maintenant, hein, la même problématique, hein, sur cette activité-là, il a un démarrage d'activité en avant-saison, un peu moins en après, mais plutôt en avant-saison, qu'il n'a pas pu effectivement faire. Donc on regardera un petit peu les données. Mais on vous tiendra au courant, il n'y a aucun problème de ce côté-là.
D'accord, merci.
Pas d'autres joueurs de tennis, hein ?
Si, si, on peut préciser qu'une saison de tennis démarre au 1er avril. Donc plein Covid, pas de cours pour les pas de cours organisés pendant les vacances scolaires du mois d'avril, pendant les week-ends pas de location pendant les week-ends du mois de mai, c'est à prendre en compte. Une saison en extérieur, c'est du 1er avril à fin octobre. Voilà, donc 6 mois.
Je vous remercie de ces précisions. C'est juste que quand qu'on restitue, ou en tout cas on ne facture pas 21 000 euros, je pense que c'est important, et M. le maire le dit souvent, que l'argent du contribuable, c'est important aussi que l'on voit, voilà, s'il y a eu une perte d'exploitation, on peut le comprendre. Maintenant, voilà, c'était ma question, tout simplement.
C'est tout à fait, c'est vrai, et je ne remets pas en cause votre intervention. Simplement, je précise qu'une saison, ce n'est pas 2 mois d'été. Voilà, tout.
Parfait. S'il n'y a pas d'autres remarques, tout le monde est monté à la volée. Je vous propose de voter. Oh, si, elle était bonne, je crois. Non, non. Je vous propose donc de voter ce rapport. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, conventionnons une servitude de passage avec Enedis, avenue des immigrés.
Voilà, c'est juste. On a une petite parcelle communale sur laquelle il y a un transformateur électrique, juste en face le chemin des EDR. Donc voilà, c'est juste pour qu'ils puissent le passer dans une publicité foncière et chez le notaire pour que ce soit régularisé.
Pas de remarques. Merci, M. Marc Albert. C'est très, très... Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Une dénomination de voie, le chemin des Étrivières.
Donc,
vous allez nous expliquer, monsieur Marc-Albert ?
Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est les Étrivières.
Ben non, pas moi. Pas moi.
Ben, c'est pour ça que je dis ça, sinon
moi, je sais
plaisir.
Pas.
Voilà.
Vas-y.
C'est le morceau de cuir qui se tient à l'étrier en bas de la selle du cheval.
J'ai jamais monté sur un cheval.
D'accord, même d'à côté on le voit, mais c'est pas grave. Donc voilà, non. Donc c'est un chemin en terre qui se trouve à Penouette et qui rejoint la RD 186. Il y a juste deux maisons, on peut dire trois si on veut jusqu'au bout. Et donc la personne nous a demandé depuis un moment d'ailleurs de donner un nom à cette voirie pour avoir numéroté sa maison. En plus, on a besoin pour la gendarmerie, pour la poste, pour les secours, et en plus maintenant. Pour la fibre, puisqu'il ne peut pas mettre la fibre s'il n'y a pas de numéro de maison et le nom de la rue. Et donc, voilà. On a demandé aux propriétaires des maisons comment ils voulaient appeler leur rue, combien il y en a qui aiment les chevaux. Ils nous ont proposé ça, pourquoi pas.
Après les tennismen, y a-t-il des cavaliers? Pas de remarques particulières? Eh bien, allons-y, baptisons donc ce chemin, le chemin des Étrivières, et on aura au moins appris quelque chose lors de ce conseil municipal. Merci, monsieur Marc Albert. Unanimité, je vous remercie. Encore une dénomination de voie, l'avenue Gérard Marc Albert. À quel endroit est-elle?
Alors, ça, c'est une voie privée qui se trouve à Kerjor. Et donc, Manitland, c'est en breton, et sinon, en français, c'est la butte des Landes, voilà. Donc c'est une voie privée qu'il faut de nouveau numérotés pour les mêmes conditions que je vous expliquais tout à l'heure, la gendarmerie, la poste et puis la fibre et compagnie, voilà.
On a appris un peu de breton. Pas de vote contre, d'abstention, unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, c'est la mise en place d'un nouveau tableau des emplois, dont j'ai compris, parce que Philic me l'a expliqué avant le conseil municipal, qu'il permettait de gérer un petit peu plus facilement les recrutements. Si vous voulez des informations plus précises, et j'imagine que vous êtes allé voir dans la note de synthèse ce nouveau tableau des emplois, et là vous l'avez comparé à un autre, au précédent. En tout cas, il est plus simple dans la gestion au quotidien, et si vous avez des questions, je n'y répondrai pas. C'est Philippe Charpentier qui y répondra. Est-ce qu'il y a des questions ? Philippe, tu veux pas te dire un mot, parce que tu expliqueras peut-être plus simplement que moi l'intérêt ?
Oui, ben moi j'ai pris connaissance du tableau des emplois. Alors je regrette, mais j'ai préféré l'autre, mais j'étais habituée sans doute à l'autre. Donc la présentation, même dans le compte administratif, ce sera celle-ci. D'accord, donc je retrouverai ça. Oui. Ah ben ça me va alors.
Non, mais c'est juste pour nous, on fermera.
Très bien.
Demain, là, vous décidez, le conseil municipal décide de créer un emploi. Je vais prendre un exemple simple. On décide de créer un emploi d'agent d'accueil. Il faut qu'on ouvre l'emploi, là, dans le tableau des emplois, il est marqué, par exemple, agent d'accueil, agent des services techniques. Cadre d'emploi des services techniques. On peut recruter un agent technique, un agent principal de première classe, un agent principal de deuxième classe. Avec ce tableau des emplois. Si on n'a pas ce tableau des emplois, on est obligé de passer une annonce avec tous les grades potentiels et d'ouvrir autant de postes alors qu'on va recruter plein. Ça veut dire qu'au conseil municipal, vous allez revoter, par exemple, on va ouvrir un agent d'accueil, mais comme il y a trois grades potentiels, on va ouvrir trois postes, donc vous créez trois postes. On recrute l'agent qui reste donc deux postes et au conseil municipal, on revient pour supprimer les deux postes qui n'ont servi à rien, en fait, juste pour recrutement.
Pas bon, du tout, pas du tout, mais...
Oui, c'est, oui, pas du tout, mais bon.
C'était très clair.
Mais par contre, oui, on voyait bien poste occupé, voilà, juste poste pour à pourvoir et poste pourvu. Ouais. Mais oui, bah oui.
Bon, donc tout le monde est d'accord pour faciliter la vie de la direction des ressources humaines de la mairie de Carnac. Je vous remercie. Dernier rapport sur le régime indemnitaire du RIFSEP, hein, qui est un... Saison 4, épisode 722, puisque nous avons donc reçu le décret qui 2020-182 du 27 février 2020 et qui permet donc aux techniciens territoriaux et ingénieurs de pouvoir bénéficier du RIFSEP, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc ce rapport vous demande simplement eh bien, l'autorisation d'instaurer le RIFSEP pour cette catégorie de personnel dans les conditions fixées par les délibérations que nous avons déjà passées au sein du conseil municipal et donc d'autoriser le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre du RIFSEP. Voilà pour ce rapport. Il y a encore des catégories qui n'ont pas été l'objet d'un décret, Philippe ?
Oui. D'accord. Donc. Une, mais à mon avis, elle y aura bien les droits, c'est la police.
D'accord. Les pauvres.
Ils ont un régime à part.
D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Unanimité, je vous remercie. Alors, question diverses ou orales, trois choses. D'abord, une information. Monsieur Marc Albert a été élu président du CIVU du Centre de Secours de Carnac. Félicitations, Monsieur Marc Albert. On parlait du musée tout à l'heure. Les services du musée nous ont proposé, pour les élus qu'ils souhaitent, de faire une visite privée du musée. Dans le cadre de la réflexion sur justement le musée, je pense que c'est assez intéressant, c'est-à-dire en dehors des heures d'ouverture. Ça permet de passer plus de temps et de voir les collections. Donc si vous êtes intéressé, je vous demanderai de vous rapprocher de Carole ou de Delphine. On en fera probablement une ou deux en fonction des horaires, mais je pense que c'est intéressant. Et la troisième chose, on va également vous communiquer l'adresse internet sur le site de formation des élus, sur lequel figure l'ensemble des formations auxquelles vous pouvez vous êtes éligible. Et encore une fois, je vous incite chaleureusement si au cours de votre mandat à effectuer des formations, c'est très intéressant. Et enfin, on a une question, je crois, sur l'antenne mobile de Kérogil de la part de la minorité municipale.
Grande question à poser concernant l'implantation à Kérogil d'un pylône d'une hauteur de 50 mètres destiné à supporter une antenne de téléphonie mobile. Pourquoi l'implantation de cette antenne n'a-t-elle donné lieu à aucune information aux élus et donc à aucun débat ni en commission travaux ni en commission urbanisme? Pourquoi le dossier d'information fourni par l'opérateur en amont de la demande d'autorisation d'urbanisme n'a-t-il pas été communiqué aux habitants qui sont mis sans concertation devant le fait accompli? Comment et sur quelle base le site de Kérogil a-t-il été choisi alors que plusieurs bâtiments sont classés remarquables dans la VAP? Enfin, envisagez-vous de créer une commission extra-municipale chargée de réfléchir et de donner son avis sur de futures implantations?
Parfait. Merci. Je vous rappelle que c'est un projet privé, hein, c'est-à-dire que c'est un privé qui a contracté avec la société Bouygues. La commune de Carnac n'a été amenée qu'à se prononcer sur la déclaration de travaux et donc sur sa légalité et sur rien d'autre. Donc je n'entrerai pas dans d'autres considérations sur ce débat. Première question. Le projet a été présenté en commission travaux lors de sa réunion du 25 septembre 2019 et Monsieur De Ripper a d'ailleurs pu poser un certain nombre de questions. J'ai ici le rapport de cette commission travaux, donc je vous permets de dire qu'il a été évoqué en commission travaux, ce projet, lors de sa réunion du 20 novembre 2019.
20 novembre.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Pour ce qui concerne le dossier d'instruction fourni par l'opérateur, il était comme tous les déclarations de travaux disponibles en mairie. À partir du moment où il est affiché, les gens peuvent venir le consulter. Un recours gracieux a été effectué sur ce projet. J'ai rencontré les riverains déjà à deux reprises. Je rencontre un des représentants de ces riverains demain matin. Donc on est toujours dans le dialogue. Moi, je n'ai pas le pouvoir de retirer ce permis aujourd'hui. J'espère que Bouygues pourra répondre à un certain nombre de demandes des riverains pour ce qui concerne l'implantation de cette antenne. Mais on est toujours dans une phase où le recours est possible. On peut même attaquer toujours cette déclaration de travaux. Troisième question, le terrain de Kérogil n'est pas dans le secteur AVAP, donc il n'était pas susceptible d'être instruit au regard de cette dimension que vous avez évoquée dans votre question. Et pour la quatrième question, envisagez-vous de créer une commission extra-municipale chargée de réfléchir et de donner son avis sur les futures implantations? La réponse est non.
Pourquoi non? Parce que finalement, ça évite toutes ces problématiques.
Non, ça n'évite rien du tout. Même. Vous avez, je pense que pendant votre mandat, vous avez eu à gérer des problèmes de téléphonie mobile.
Vous vous souvenez? Oui, vous vous souvenez.
Bon, donc, malheureusement, ça ne résout pas les problèmes. Et je dirais même que, autant je suis ouvert à discuter, recevoir, mais on sait très bien que pour ce genre de questions, c'est toujours très complexe. Vous vous souvenez du MENEC, quand on a fait les antennes de téléphonie mobile au MENEC, on avait eu exactement le même problème avec des riverains qui étaient très inquiets. On les a reçus, le projet a fini par se faire. Encore une fois, on est toujours entre le marteau et l'enclume de beaucoup de gens à la campagne qui réclament une meilleure distribution des réseaux mobiles et Internet parce que c'est un vrai problème dans les campagnes à Carnac. Et puis l'autre partie le marteau ou l'enclume, comme vous voulez, qui effectivement les réticences d'un certain nombre d'habitants à avoir des antennes près de chez eux. Donc c'est très compliqué. Encore une fois, là il s'agit d'un projet privé. Si ça avait été un projet municipal, j'aurais peut-être eu une autre position, mais là c'est un projet privé, encore une fois. Je n'ai à me prononcer que sur la légalité de la déclaration du permis et pas sur son opportunité.
Ça c'est juste. Par contre, je reviens sur ce que, parce que j'ai posé la question du pourquoi non. Vous me dites, vous avez eu à gérer pendant votre municipal, enfin l'ancienne municipal, quand j'étais en adjointe, en tout cas, c'était pas moi personnellement, mais peu importe. Mais ça ne répond pas. Enfin, pour moi, c'était une affaire. Après, j'en pense aussi ce que j'en veux. Mais ça, c'était autre chose.
Mais vous n'aviez pas créé de commission extra-municipale pour gérer ce problème à l'époque?
Non, mais à chaque fois. Attendez, je vais juste préciser.
C'est un peu facile quand on est dans la minorité, on demande des commissions extra-municipales, et quand on est soi-même aux affaires, on le fait pas et on reproche aux autres.
Non, mais Monsieur le Maire, entre être adjointe et être le maire, c'est quand même différent. Et puis je trouve, on peut, non mais sincèrement,
non, si, si, de faire des gros... Il y a une différence, je suis d'accord.
Ouais, bah, il y a quand même une grosse différence. Donc le pouvoir, c'est quand même vous. Donc à partir de là, ce que je ne comprends pas, c'est que souvent on parle d'ouverture, vous parlez vous-même d'ouverture, et de créer, enfin je défends juste l'idée, hein, de créer une commission où des riverains, des élus fassent partie, et je sais que dans, enfin j'en viens donc à Bayonne, ils ont fait ça, et ça évite d'avoir des problèmes, de se retrouver avec des gens qui disent qu'ils n'ont pas eu l'information, de faire des critiques. Quand on met les personnes... quand on les implique, en tout cas, ça peut éviter ces banderoles, ces tracts, enfin.
Mais bon, je suis pas. Mais on les implique d'ailleurs. Enfin, je veux dire, je les reçois et je les recevrai tant qu'ils auront besoin d'être reçus. Après, il n'y a qu'une seule personne qui peut retirer ce projet. C'est la personne qui a contracté le contrat. Enfin, et aujourd'hui, je ne sais même pas s'il peut parce qu'il a signé un contrat. La seule entité aujourd'hui qui peut retirer ce permis, c'est Bouygues Télécom.
C'est Bouygues.
Donc, moi, à la limite, je peux rien y faire. Et je pense même que la loi m'interdit de retirer ce permis, puisqu'il y a eu des dispositions légales qui ont été votées il y a quelques 2018, mois, ouais. qui font que je ne peux même pas retirer ce permis.
De toute façon, même le recours gracieux, ça vaut rien. C'est le tribunal administratif directement.
Donc, à un moment, concerter des gens sur des choses sur lesquelles je n'ai même pas la main, je vois pas trop.
Ah si, vous avez quand même le droit de signature, c'est vous qui signez les autorisations.
Mais il faut une base légale pour la refuser, Madame Le Vaulevent.
Ah mais ça, je suis d'accord.
Je peux pas la refuser simplement parce que ça ne me plaît pas, donc voilà. Légalement, je ne pouvais pas ne pas signer.
Ah non, mais ça, là-dessus, je n'en reviens pas. Par contre, c'est vrai que le collectif, quand on lit la presse, ce qu'il regrettait, c'est de ne pas avoir été informé. Alors vous me dites qu'il était affiché. Donc c'était affiché.
Non, mais je veux dire que la déclaration de travaux, il y a un affichage sur site, et donc à ce moment-là, c'est comme un permis de construire. Quand vous avez un affichage, vous êtes le voisin, vous n'êtes pas averti avant, mais quand vous avez l'affichage, il y a un droit de recours qui commence, et donc les riverains peuvent être informés, retirer le dossier, et donc faire ce qu'ils ont fait, attaquer. Mais de toute façon, ils auraient été informés avant, ça n'aurait strictement rien changé, puisque la personne qui a signé ce contrat l'avait signé.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour revenir sur ce genre de dossier, lorsqu'un opérateur téléphonie donc doit installer une antenne, il doit donc prévenir la mairie, chose qu'il a sûrement faite évidemment, hein, donc on est au courant, la mairie, et il doit aussi présenter un dossier d'information. Ce dossier d'information, vous l'aviez à votre disposition. Donc c'est à ce moment-là, finalement, et certaines communes, et beaucoup de communes le font aussi, c'est ce dossier d'information qu'il aurait fallu porter à connaissance, en tout cas, aux riverains ou aux habitants de Carnac, soit sur le site de la mairie, ça peut être, enfin c'est vrai que vous n'avez pas, peu importe le moyen, en tout cas, on ne vous oblige pas à le remettre aux habitants aux riverains, mais vous pouviez ou par le site de la mairie ou en affichage aussi, chose que vous n'avez pas faite. Et je pense là où le problème, le problème en tout cas.
Bon, en tout cas, ça n'aurait malheureusement pas pu changer le cours des choses, ni légal, ni juridique. Monsieur Luneau.
Quand Bouygues cherche un endroit où implanter une antenne, il demande à la mairie quel terrain, on a besoin de s'installer par là, quel terrain nous recommandez-vous?
Tous les opérateurs, effectivement, en fonction des contraintes techniques, cherchent des endroits, ils consultent évidemment la mairie, mais si la mairie n'a pas de foncier à l'endroit qui est recherché, effectivement, ils vont démarcher des privés, en fait, et c'est ce qui se passe.
Et la mairie n'en avait pas?
Non, la mairie n'en avait pas à cet endroit-là.
Ouais. La mairie ne souhaitait pas éventuellement s'occuper d'acquérir un terrain, parce que c'est un loyer apparemment très modeste qui a été... signé avec un propriétaire très âgé.
Je pense que là, attention à ce que vous dites, c'est public. Donc, garder une certaine retenue.
Oui, mais
Radio Moquette, c'est très bien, mais là, on parle de quelqu'un, d'un Carnacois. Donc, avant de dire que, de sous-entendre que.
Non, mais là. Est-ce que ça pourrait être vigilant là-dessus aussi parce que,
comment?
Est-ce que la mairie souhaitait.
La mairie n'a pas compétence pour ce genre de choses, monsieur Luneau. C'est sa famille, éventuellement, mais pas moi. Je ne peux pas m'immiscer dans ce genre de choses. Je ne peux pas décider qui est apte à signer un contrat ou pas apte à signer un contrat. Je ne suis que maire. Je vous remercie. Passez tous un bon week-end.
J'ai une dernière question.
Oui.
Doit-on laver la gourde avant de la rendre à l'issue du mandat?
Non, la gourde, elle est offerte définitivement, monsieur Luneau. Vous pouvez la garder.
Je suis très touché, merci.